originale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadhafi, Daniel Morin, Albert Algout, Alexis Rossignol.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau et notre invité Jean Aspar.
Bravo.
Bienvenue à ce micro. Comment ça va, Joanne Farr?
Mais ça va parce que je suis chez l'animateur préféré des Français. Je l'ai appris il y a une demi-heure et je suis bien content.
Mais comment ça s'est tombé? J'ignorais.
C'est Cinès, là, le préféré.
Non.
T'es passé devant.
Enfin, moi, ce que j'ai retenu, il y a marqué l'animateur préféré des Français reçoit Joanne Farr. J'ai beaucoup aimé ça, cette dernière partie de phrase.
Ça me touche que vous veniez ce jour-là, en tout cas. Oui, écoute.
Mais bravo, attends. Et ça y est, ça va.
C'est surtout battre Michel Cinès, qui était quand même le but de ma vie.
Une jouissance pour toi.
Tu peux pas savoir, là, il y a un orgasme.
L'année dernière, c'était qui? C'était Plaza.
Stéphane Plaza. On va peut-être parler de notre invité.
Non, mais on peut faire une petite parenthèse.
En même temps, tu parles 5 secondes de Stéphane Plaza, t'as fait le tour de la question.
Tu crois que tu as dit?
J'en aime pas un des trois.
Tu n'as pas voté, toi, pour les trois.
Double actualité, Joanne Farr. Pour le chat du rabbin, évidemment, la reine de Shabbat, c'est le 9e volume. Et puis Blueberry. Alors, on va évoquer les deux, mais essentiellement Blueberry, si vous le permettez.
Avec plaisir.
Parce qu'on a beaucoup déjà parlé de votre chat et on l'aime, votre chat.
Tu disais tout à l'heure qu'on en a trop parlé.
Mais Blueberry. Vous êtes tombé dedans petit ou pas dans les histoires de Blueberry?
C'est un projet qui est avant tout porté par mon camarade Christophe Blin, qui est amoureux de western depuis toujours.
Non, mais je parle de vous, lecteur, pardon, de Blueberry.
Moi, oui. Bah, comme tout le
vous
monde,
aimiez...
c'était pour moi quand j'étais petit, je croyais que c'était la BD pour les grandes personnes. J'avais le sentiment que c'était écrit pour les adultes et les dessins de Jean Giraud qui évoluaient d'un album à l'autre. Enfin, moi, je comprenais pas que ce soit pas au Louvre les dessins de Jean Giraud. Pour moi, c'était
des œuvres.
Oui, c'était un peu le truc qu'a copié Léonard de Vinci avant de faire ses dessins. Enfin, moi, je le voyais comme ça. Il y avait Giraud et Frazetta quand j'étais petit. Pour moi, parmi les très grands artistes.
Et là, vous retrouvez scénariste et pas dessinateur.
Oui.
Donc
vous l'avez mal pris,
Christophe Blin.
Non, j'ai pris cher surtout. J'ai pris cher surtout parce que mon camarade Christophe est un fou de western et moi je pensais aimer les westerns mais je me rendais pas compte à quel point j'y connaissais rien. Donc ça a été du catch pendant 2 ans et en fait on a écrit à deux et c'était un sacerdoce quoi. C'était bon, d'habitude j'écris des BD marrantes. Là je voulais que mon copain soit content. C'est pas simple.
Non mais alors, et comment on écrit à deux, expliquez-nous, parce que moi je pensais que vous avez écrit le scénar et que lui a fait les planches.
Alors, j'ai écrit un scénario en entier, comme je fais d'habitude, je lui ai donné...
Sans dessin, c'est que du texte.
Oui,
il y a des bulles quand même.
Il y a des carrés pour qu'il fasse les bulles dedans. Enfin, je mets les bulles, puis lui, il doit faire les dessins. Et il a lu, il m'a dit, il faut tout jeter, il faut tout refaire. J'ai dit, pourquoi c'est de la merde? Il m'a dit, non, c'est pas de la merde, mais c'est du Joanne Farr, et c'est pas ce qu'on veut. Et là, j'ai commencé à me demander ce qu'il voulait.
D'accord.
Et comme je suis parti sur l'idée...
Pardon déjà, il vous parle comme ça?
Mais c'est mon meilleur ami.
Ah oui,
c'est pas, on n'est pas dans des relations. Je peux pas faire grève par rapport à lui. On est amis, quoi. Et ça me fascinait de voir ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est quelque chose sur ces histoires de mecs avec leurs flingues, avec leurs chevaux. Bah, là encore, en temps de grève, les chevaux, c'est utile. Mais il voulait un truc sérieux. À chaque fois que je mettais une vanne, il fallait l'enlever. À chaque fois, je mettais un truc. Et donc, on a essayé de...
Mais comment on écrit hors de soi? Parce que du coup, c'est de pas faire du Joanne Farr, c'est ne pas faire du vous. Donc, ok, les blagues, j'entends. On enlève les blagues, mais il y a
éviter
un moment...
Éviter toutes les facilités et me dire qu'est-ce qui m'a plu quand j'étais petit. Qu'est-ce qui...
Vous aviez écrit un Lucky Luke à la base, c'est ça?
Moi, faut pas me pousser deux fois pour rajouter des conneries et pour faire parler les animaux et tout ça. Mais lui, au bout d'un moment, j'ai compris que ce qu'il appelait un western, c'est du Kurosawa ou c'est du roman russe. C'est-à-dire, c'est une histoire sérieuse, emblématique, où tout va se régler. On a
Et qui est même ancré dans un lourd passif entre les relations, les rapports entre les cow-boys et les indiens, rapport homme-femme. Enfin,
ça tombe mal ces temps-ci quand même. Quand j'ai dit à ma fille de 19 ans que j'allais faire un western avec des cow-boys et des indiens, elle m'a dit « Papa, on dit pas des indiens, on dit des natives américaines ». Donc, partant de là, tu racontes quand même l'histoire d'un bonhomme debout avec des flingues. Attends, on est post-MeToo, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et justement,
interroger sur les personnages féminins. Qu'est-ce que c'est être féministe dans un western? C'est donner, j'allais dire, aux comédiennes des rôles intéressants. Une comédienne, elle se plaint pas qu'on lui donne pas des rôles assez gentils. Elle se plaint que les personnages se ressemblent tous. Donc on a, par exemple là, notre méchant, c'est une méchante.
Ouais, il y a deux femmes qui ont le rôle principal. Il y a la femme du capitaine ou du commandant du fort, qui a un rôle clé et qui est un twist à la fin de la bande dessinée. Et puis il y a la femme qui commet l'acte.
C'est une jeune fille.
Oui.
C'est
une femme.
Oui. C'est une jeune fille qui tue pour protéger son frère qui est une ordure. Son frère a violé une indienne et elle
même
tue
carrément en train de.
Et elle tue pour protéger son frère.
Voilà. C'est le point de départ d'une crise qui va naître. Mais alors, c'est assez surprenant, je suis d'accord avec Leïla, c'est assez surprenant qu'on vous demande de faire quelque chose en disant ne sois pas ce que tu es. Parce que bizarrement, quand on vous demande quelque chose, c'est pour ce que vous êtes.
C'est comme ça qu'on apprend quand même de retrouver... c'est un travail presque grammatical de dire, bon, qu'est-ce qui...
De revenir à l'essence de l'histoire.
Oui, ça va se raconter en images. Qu'est-ce qui nous marque dans un western? Qu'est-ce qui fait... Et puis, il y a la responsabilité, non seulement vis-à-vis de la mémoire de Charlier et Giraud, mais vis-à-vis des gens qui lisent Blueberry depuis toujours, ils viennent pas pour lire Le Chat du Rabbin, ils viennent pour retrouver quelque chose qui leur a plu dans Blueberry. On n'est pas là pour faire un pastiche, on n'est pas là pour copier, mais on est là pour leur dire qu'on joue au même jeu qu'eux, on a les mêmes souvenirs qu'eux par rapport à Blueberry.
Ça veut dire que ça colle une sacrée pression. Non seulement il y a tous les lecteurs, tous les fans de Blueberry, et puis...
Et les fans de Joanne Sfar.
De Joanne Sfar. Il faut aussi se documenter sur un genre, le western, où vous avez vous-même avoué que vous n'étiez pas complètement au point par rapport à votre confrère. Ça veut dire que c'est combien de temps de préparation? Je pense à la préparation d'un Blueberry par rapport à un Chat du Rabbin.
Oui, ça a été 2 ou 3 ans de travail, et ça a été... je crois qu'on peut pas faire autre chose qu'un travail d'auteur là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un écrivain a à dire sur la figure du cow-boy, sur le western, en bande dessinée? Parce que, au cinéma, moi je trouve que le western est moribond au cinéma. Il y a des grands westerns qui sortent en ce moment, mais ils n'impriment plus au niveau populaire comme c'était le cas avant. Alors qu'en bande dessinée, il y a encore de grands westerns qui cartonnent en BD, de Undertaker ou plein d'autres.
Et c'est visiblement le début d'une série, si j'en crois dernière page.
C'est une histoire complète en 2 volumes.
C'est ça.
Il y avait trop de pages. Mais ça, Giraud et Charlier le faisaient aussi, d'avoir des runs sur 2 ou 3 albums. Donc ça tient en 2 volumes parce que tout simplement en 60 pages, ça tenait pas.
Mais en même temps, on peut la lire d'une manière totalement indépendante, même si on s'attache au personnage.
Oui, mais quand même, il vaut mieux la suite aussi, parce que l'histoire se comprendra.
Amertume Apache, c'est le titre de cette aventure du lieutenant Blueberry, co-signé par Joanne Sfar, qui est notre invité, et Christophe Blain. On va évidemment parler de cette bande dessinée, mais d'abord, des questions concernant Joanne Sfar. À 15 ans, il est prêt à tout pour être publié, au point de faire quoi?
Se prostituer.
Non, pas pour toi.
Dormir devant.
Non,
d'aller déposer ses dessins, d'aller dans la rue, alpaguer.
Alors, c'est une manière d'alpaguer, de mettre la pression, mais...
Afficher ses dessins.
Non.
De menacer de quelque chose en échange s'il n'était pas publié.
Non.
De se coucher devant la porte d'un éditeur.
Faire la grève de la faim.
Lui ouvre la porte.
Non, c'est vraiment une pression, ça frise du harcèlement.
Appeler tout le temps, il y aller tous les jours.
D'aller au restaurant.
Non.
De faire des dessins sans cesse, des gros books, de déposer des liasses et des liasses de dessins.
D'aller à Angoulême.
Donc d'envoyer, ça ce sera
de
janvier.
De pister la personne.
Oui. Non. Donc d'envoyer des manuscrits.
Tous les jours.
Et de rappeler tout le temps quand ça vous
ressemblait.
C'est pas tous les jours, c'est tous les mois, mais enfin, c'est quand même du harcèlement que vous faisiez.
Et j'avais trouvé l'adresse de Guy Delcourt et je lui mettais sous son paillasson.
Au domicile personnel?
Oui.
Ah oui, ça va loin.
Et au bout d'un moment, c'était qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes?
Donc c'était presque rester à sa porte en permanence.
Oui. Tu veux récupérer le point. Quel petit boulot a fait Joanne Sfar dans des synagogues?
Il a allumé les cierges.
Non.
Éteint les cierges.
Laver les carreaux.
Non.
À l'entrée, il y a un truc à faire.
Ouais. Rouler la Torah.
C'est important les tissus qu'on distribue pour couvrir la tête. Non, ça en vient chez quelqu'un.
Rouler la Torah.
Non.
Il a filtré les gens qui rentrent.
Exactement.
Ah ouais.
Vigile.
Mais oui, c'est vrai.
En faciès.
Non, mais c'est l'époque où il y a commencé à y avoir des attentats devant les synagogues et devant les restos cachers, et on était la seule religion où il fallait des flics et des vigiles devant le temple pour prier. C'était pas très drôle.
Toujours en fait. Aujourd'hui.
Ouais, est-ce que vous avez eu à agir?
La seule fois où il y a eu un vrai problème, absolument, il y avait un vieux juif commissaire de police à la retraite qui était rentré avec son flingue et on n'avait pas vu. Et en pleine prière, il s'est mis à paniquer et il a levé son flingue comme ça un Shabbat en pleine prière. C'était une panique. C'est le seul acte de vraie violence qu'on ait connu à la synagogue de Nice.
Il était gâteux ou...
Oui.
Et dangereux surtout.
Dangereux, oui.
Mais vous vous êtes jamais battu, vous avez jamais agi comme un homme de sécurité?
Non, je crois pas. On nous demandait de rester devant la porte et de faire attention.
Dissuasif.
Il y avait un flic de la police municipale niçoise qui était devenu un copain. Il m'a dit, tu sais, on a un entraînement au tir tous les 2 ans, je te préviens, à la moindre embrouille, je me cache derrière une voiture.
Il a une collection, parce que je sais pas, une collection, ça commence à quoi? 2, 3, c'est une collection ou pas pour vous?
Ça fait peu.
Non.
Ça commence à 7.
Ça commence à 7. Ouais. Bon, il a pratiquement alors une collection.
Ça dépend de quoi aussi.
De quoi? Voilà.
7, des voitures.
Il en a 6. Non.
Des voitures.
Des enfants.
Non.
Mais des prix?
Non.
Des récompenses?
Des originaux de
des orteils?
Non.
Des Tintins?
Pas des orteils
des
non
planches,
plus.
Des planches?
Non. Il y en a
que c'est un lien avec le métier, la BD.
Des planches
avec lui,
originales.
Oui, c'est un lien maintenant avec son métier, oui.
Des planches originales?
Non. Des prix?
Des photos, des clichés de Bonnard? Non. Non.
Il en a 6.
6, c'est pas beaucoup en même temps, mais ça veut
enfin,
dire...
chien.
Il en a pas pas loin. Il en a
chats.
Eh ben évidemment.
Ah ouais.
Il en a eu jusqu'à 6. Peut-être pas aujourd'hui, malheureusement.
Non, il y a eu des décès. Il y a 4 chats à la maison et entre 1 et 3 chiens par intermittence selon la présence de mes enfants.
D'accord. Et le chat du rabbin.
Lui est mort.
Et lui est mort.
Lui est mort.
Et lui a existé. C'était un chat.
Oui, il était formidable parce que c'était le seul qui était propre. Tous les autres pissent partout.
Vous n'avez pas des litières chez vous?
Si, mais ça suffit pas, ça les intéresse pas, ils aiment mieux faire à côté. C'est un statement, c'est un message.
Nous
aussi, ils ont, bah oui, il y a des mouvements syndicaux chez les chats.
Non, mais
ils ont
un truc à dire. J'ai deux chats, ils font jamais à côté de la litière.
Ah ouais,
non,
c'est les
miens. Et puis on leur apprend pas. Ouais. C'est un...
Ouais, mais ta litière fait 20 mètres carrés.
S'ils
font à côté,
je vis dans la litière.
Le vrai chiffre, c'est qu'on a 8 bacs à litière chez moi. Il y a 8 bacs à litière. Il faut
tout ça pour qu'il pisse à côté.
Pour qu'il pisse à côté.
Ah ouais, non,
ah, c'est des vis là. Hein.
Ouais. Dans quelle pièce de son appartement Johan Sfar lui arrive-t-il en tout cas de dessiner chez lui plutôt que
toilettes.
Plutôt que dans l'atelier? Non, le réflexe des toilettes.
Ah, c'est un grand salle de bain. Cuisine.
Non, cuisine.
Grenier.
Exactement. Ouais, cuisine. Pourquoi la cuisine? Il faut qu'il y ait de la vie.
Mais parce que quand on se dit c'est le bureau, faut que tu travailles, ça bloque. Mm. Par exemple, tu dis va à la cuisine, détends-toi, mais amène quand même un papier. Là, ça peut se déclencher.
Est-ce que vous êtes capable de dessiner dans un resto, dans un troquet, avec du bruit autour de vous?
Oui, partout. Il n'y a que le silence qui m'empêche vraiment de travailler. Mais quand il y a du bordel, je dessine tout le temps.
Bon. À une époque de sa vie, Johan Sfar s'est inscrit sur une application
mythique.
De...
Tinder.
Sur Tinder, voilà.
Un jour pas là.
Et, non, c'est pas ça la question. Mmh. Et il n'a reçu que des propositions qui ne le tentaient pas.
L'ANPE.
Pourquoi?
Des hommes.
D'où vous avez ces infos?
Des hommes.
Non, c'était...
Grindr.
C'était communautaire.
C'est, oui.
Ouais. Bah, c'était, ouais,
c'était
en lien avec quoi, la religion,
la sexualité.
C'était des kidours, des kidouches ou comment on dit, ouais, c'est des rendez-vous, non?
Non.
C'était communautaire, c'est que des fans de BD, de manga, de...
Non.
Communautaire,
non.
Quoi?
Communautaire. Attends, sexuel.
Ah, des
les
SM.
Trans.
Non.
Les berges.
Non.
Des gens qui dessinent sur le corps des gens qui...
Non. Non, 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 mais ça c'est pas trop compliqué, mais après il faut savoir pourquoi. Donc il recevait il y a une communauté.
Zoophile.
Fétichiste.
Non, une communauté sexuelle, totalement légale.
Ah oui.
Les
non,
prêtres.
Non, non, non.
Légale, les prêtres.
Bah, c'est légal.
Non, enfin les zoophiles et prêtres, non.
Un truc légal.
Oui.
Bah, attends, sexuellement légal.
C'est un curé qui a boyé.
Bah, tout est légal à part la zoophilie.
Tout, voilà.
Oui.
Tout est légal.
Les échangistes.
Bah, les gens qui veulent
donc,
faire.
Donc c'est une catégorie
un
sexuelle.
Ouais.
De
les masos.
De personnes qui réclamaient des personnes, point.
Ah, pour faire des orgies, des...
Ouais, il est content, je peux pas m'en sortir.
Dites-vous juste que je sais pas remplir un imprimé.
Non, non, non,
la
non.
La fistinière,
il a non. Non.
Ah oh bah écoutez, pendant qu'on...
Il a reçu, je vois pas de quoi tu parles.
La communauté gay, la communauté...
Oui.
Ah oui, voilà.
Voilà,
on l'a dit.
D'accord. Non, je l'ai pas dit. Non,
si, on a dit homosexuel.
Gay. Alors soyons très précis. Non.
Attends,
très précis, gay, mais alors gay.
Friendly.
Bah,
bisexuel.
Bi.
Trisexuel.
Non.
Gay friendly, non. Alors,
homme ou
gay,
femme.
Moustache.
Lesbienne.
Lesbienne.
Alors pourquoi reçoit-il.
LGBT.
Pourquoi reçoit-il que des propositions de lesbiennes?
Parce qu'il a pris un pseudo de fille.
Exactement.
Mais non,
c'est pas ça. C'est que je me suis inscrit sur Tinder et j'ai pas su remplir et j'ai mis que j'étais une femme qui cherchait des femmes.
Oui, c'est pareil.
Alors, du coup, on m'écrivait en disant mais pourquoi vous mettez une photo de Johan Sfar comme profil? Et ça a duré des mois, je comprenais pas en fait pourquoi toutes les nanas qui m'écrivaient voulaient des
alors,
nanas,
ça,
je comprenais
ça
pas.
Vous aviez quelque chose ou pas? Parce que ça peut être
non,
intéressant.
Non, pas du tout. Mais moi je suis un très mauvais produit pour je sais pas faire.
Non, vous êtes mal marketé. En fait.
Ça aussi.
Ouais, c'est ça.
Moi, je pense que ça vous est marré.
Pour vous faire aider.
En tout cas, ça va donner des idées à plein de mecs.
Ah ouais.
Comment, je suis pas sûr que ça marche. Comment le papa de Johan Sfar a essayé d'éveiller la curiosité de son fils pour qu'il devienne avocat?
En l'emmenant assister à des plaidoiries.
Exactement.
Oui, ça, c'est vrai.
Tu vois, ça, c'est une
oui, tu moi, t'en ça, sens c'est mieux plus que la communauté
ouais,
sexuelle.
C'est ça, exactement.
Je te présente un avocat, tu vois.
Ça a été l'inverse, finalement, ça vous a bloqué?
Non, mais si, ça rend écrivain. Mais il faut que les jeunes y aillent. On a le droit d'entrer dans les prétoires, ouais. On a le droit d'assister à des procès d'assises.
Oui, on n'a pas forcément envie d'entendre des horreurs aussi, parce que
c'est mille fois mieux que ce qu'on voit dans les polars. Et puis ça éveille très tôt à une certaine.
Pour y être allé, on peut voir aussi la misère du monde, franchement.
Oui, mais c'est intéressant. Puis ça éveille très tôt à la justice sociale, parce que c'était pas le plus égalitaire au monde, les trucs.
On le fait avec les élèves.
C'était jugé à la tête du client, parfois.
Pour voir un peu, il y a des procès comme ça, où il y a, par exemple, un souvenir d'un homme qui était jugé parce qu'il avait conduit en état d'ébriété. Il était, à terme, sans doute privé de son permis, et il expliquait, mais comment je fais pour travailler? Et ça avait donné lieu à une vraie discussion au sein d'une classe.
Comment je fais pour aller au bistrot, quoi?
Merci.
Blueberry, donc cette série créée par Jean-Michel Charrier et Jean Giraud, qui est née en 63. Cette série, dans l'histoire des États-Unis, peu après la guerre de sécession. Et là, c'est encore le lieutenant qui patrouille près d'une réserve, je ne vais pas dire indienne, c'est ça, sinon je me fais engueuler par votre fille.
Amérindienne,
si, c'est Native ça. Americans.
Ah. Ouais, mais la raison.
Amérindien, native américaine, c'est ça?
Bah si, non seulement il y a des cow-boys et des indiens, mais en plus c'est un vrai western de cavalerie, c'est un western à l'ancienne, à la John Ford, enfin, tout ce qu'il y avait de marrant dans le western italien, on n'en a pas voulu, tout ce qui fait western.
Il y a quand même une femme qui ressemble étrangement
à une héroïne de
western. Claudia Cardinal.
Il y a un beau casting, il y a Paul Dano, il y a Claudia Cardinal, il y a Brigitte Bardot, il y a tout le monde. Il a mis tous les comédiens qu'il aimait. Christophe est en BD, ça coûte pas cher. On va voir si on a des procès. Mais en plus, il dessine ressemblant.
Est-ce qu'il faut demander l'autorisation quand on dessine quelqu'un qui ressemble à quelqu'un?
Quand il y avait Pierre Tchernia dans Astérix, il demandait pas.
C'était une caricature, c'est un droit.
Oui, c'est ça.
C'est un droit à la caricature.
Oui, puis si on nous demande, on dira que non, on n'a pas fait exprès.
Et puis Claudia Cardinal ressemble plus vraiment au dessin.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai. Elle ressemble plus au dessin.
Tu passes ton temps à la voir maintenant, toi.
Mais tout le temps,
Tu t'es vu, toi?
Mais ça suffit.
Mec qui respecte rien, mais sans blaguer.
Je dis qu'elle a changé. C'est du factuel.
C'est honteux.
Je trouve qu'elle s'est épanouie maintenant.
Ouais, c'est ça. Voilà, rattrape-toi comme tu peux. Joanne Sfar, vous disiez avoir travaillé ensemble avec Christophe Blin, c'est-à-dire vous écriviez un texte. Moi, je crois pas au côté. J'envoie des cases avec des bulles pleines. Il a plus qu'à faire les dessins dedans. Donc c'est un texte, c'est vraiment avec des dialogues. C'est comme un scénario de film.
Oui, je fais les cases, je fais des textes dedans, je lui amène.
Non, c'est une blague.
Ah, vous faites vraiment
des
cases.
Bien sûr. Bah évidemment.
Pourquoi
Il y a la syncope de la narration de la BD. C'est pas du tout comme un storyboard de cinéma. C'est plus comme une page de journal. C'est comme si on plaçait.
Moi, je croyais que vous blaguiez quand vous disiez je faisais une case vide.
Ah, absolument pas.
Donc c'est vous qui déterminez si une case sera de taille normale ou si au contraire sera une pleine page.
Non, parce qu'après il change tout. Mais je lui indique. Mais ça c'est juste avec son meilleur copain. Avec un autre dessinateur, j'accepterai pas.
D'accord.
Mais je lui indique le rythme que je souhaite et ce que je voudrais mettre dans les cases. Il me dit c'est de la merde, je vais le faire autrement. Il me le ramène, on discute. Il me dit je vais tout changer. Enfin, il y a des allers-retours comme ça.
C'est très violent quand même, vos rapports.
Avec n'importe qui d'autre, ce serait douloureux. Ouais. Avec de lui, j'accepte tout. Ouais. Parce que d'abord, c'est mon dessinateur préféré.
C'est son pire pote.
Et ensuite, non, mais je sais qu'il a raison. Il viendrait sur l'heroic fantasy, c'est mon domaine. Le western, c'est son truc. Je vais pas l'embêter. Il a une relation tellement intime au western. Je vais pas me mettre entre le western et lui.
Alors, vous qui, avec vos autres bandes dessinées, vous êtes, et auteur, compositeur, interprète comme un musicien, vous faites. Et le texte et les dessins et la mise en page, et où finalement c'est à vous que vous réglez des comptes de faut-il couper, faut-il au contraire prendre plus de temps, et quelle est la taille d'une planche par rapport à un autre cadre. Là, de travailler ensemble, est-ce que vous êtes rendu compte de l'importance qu'avait le dessinateur sur le scénariste et inversement?
Ah oui, et puis le style, ça veut rien dire, mais ce qu'on appelle le réalisme. Quand je vais dessiner dans Le Chat du Rabbin, il y a tout de suite un petit côté mignon ou je sais pas quoi. Christophe, il fait une espèce de c'est des statues, ces personnages, donc le même dialogue va avoir un aspect complètement différent. Ça paraît, les mots paraissent plus graves, les choses paraissent plus, vraiment c'est bizarre, je redécouvre pourquoi il en enlève parfois dans la violence ou dans les choses que je mets, parce que dessiner réaliste, ça devient beaucoup, il y a une intensité quand c'est lui qui dessine.
Le patron de la bande dessinée n'est pas celui qui écrit les scénars, c'est le dessinateur.
Ah ouais.
C'est lui qui coupe au montage.
Pour moi, le dessinateur, c'est le metteur en scène.
C'est le metteur en scène.
Ou l'interprète, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est le plus important, c'est la. Vous savez, il y a Scorsese qui avait dit ça sur les adaptations. Il avait dit la structure, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la voix de l'auteur.
Mais alors comment
la voix, c'est le dessin.
Comment expliquer, avec tout le respect que je dois à Uderzo, qu'il y ait eu un avant et un après Goscinny avec Astérix, par exemple?
Non, mais Goscinny était dessinateur. Goscinny, il a été dessinateur pendant longtemps.
Il a commencé dessinateur.
Hein. Et, oui, voilà, enfin, oui, mais il écrit...
Pour Astérix, c'est...
Mais il y a une alchimie, il y a une... Bah, regardez la différence entre... Les Lucky Luke et les Astérix écrits par Goscinny, qui sont aussi formidables les uns que les autres, mais le dessinateur change vraiment la voix. Donc c'est une danse, c'est danser avec un
artiste. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un bonhomme génial comme Goscinny disparaît, il y a d'autres auteurs qui sont venus apporter leur vanne, apporter un style en essayant de rentrer un peu dans les chaussures de Goscinny, et ça n'a pas été exactement aussi efficace.
Il y a une chose qu'on dit pas au sujet de Goscinny aussi, parce que c'est le génie d'une époque. C'est l'époque où on a commencé à se marrer de la modernité, se marrer de tout. Il y a un humour qui était...
À la Gottlieb aussi.
Mais qui avait du sens à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire les mêmes blagues que Goscinny de la même façon? Je suis pas certain. Je crois qu'il faut... Il y a des blagues d'aujourd'hui. Et c'est bien qu'un artiste soit dans son époque aussi.
Et donc là, pour vous, d'avoir été dans l'ombre, ou d'être dans l'ombre de Christophe Blain, c'est confortable? C'est-à-dire d'être au-delà de l'amitié qui vous lie?
C'est confortable, non, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il y a une vraie surprise. Pendant 6 mois, il m'a rien laissé voir du livre. Il était à l'atelier avec Mathieu Sapin et je dis, je peux venir? Non, tu viens pas, je travaille. Je l'imite là.
Il parle comme ça.
C'est terrible, il parle comme ça.
Et ça Mathieu... donne pas envie de le voir tout de suite.
Si, il est super. Vous savez que Christophe Blain a dû jouer un homme nu dans un de mes derniers films, un homme nu mort, mais il devait faire une photo. Et pour le détendre, la costumière lui dit, mais Christophe, tu es formidable, tu ressembles à Robert Redford. Et Christophe a répondu, non, Steve McQueen. Donc voilà, pendant les 6 mois où j'ai pas pu voir mon album,
déjà pour comprendre aussi la portée de la blague.
Mathieu Sapin me disait, j'ai vu, donc le camarade d'atelier, j'ai vu les pages, c'est très bien. Voilà, pendant 6 mois, j'ai vu ça. Et après, il m'a montré, effectivement, c'est très bien.
Et c'est pas dur quand on est soi-même réalisateur?
Ben oui.
De fiction, enfin voilà, et de pas être mis au courant, de pas être aux commandes.
C'est insupportable.
Non,
mais c'est surtout insupportable parce qu'il a rendu tellement en retard que l'album fini, on a pu le lire 3 jours avant qu'il aille chez l'imprimeur. Et
rien n'a rattrapé.
Là, on pouvait même pas changer une faute d'orthographe. Enfin, c'était fini, ça partait. Mais j'aime bien.
En tout cas, c'est bien. Le résultat est extrêmement agréable. C'est vrai que le dessin est dingue et que l'histoire est assez à sa logique, j'allais dire traditionnelle de western, et en même temps des rebondissements et quelque chose d'un peu plus moderne, en tout cas dans les twists qui peuvent intervenir. Ça s'appelle Amertume Apache, co-signé par Johan Sfar et Christophe Blain. C'est publié chez Dargo. J'ai oublié de le préciser.
Très beau dessin de Claudia Cardinal. Faut le
préciser. Des révélations ou pire, voici François.
Désolé, mon cher Nagui. Allez, à la demande de la direction de Radio France, je remplace François qui est en grève pour soutenir les François chanteurs survivants. Ils sont obligés de chanter, hélas, encore longtemps pour espérer toucher une retraite décente. François Valéry, François Feldman, François Zardy. Bon, ceci dit, pour venir ici, j'en ai bavé, mais comme il n'y a pas de train, pas d'horaire, c'est à force du poignet que je me suis rendu à Maison Ronde en fauteuil depuis les vieux glands, mon EHPAD. 57 kilomètres, sacré chevauché. Oui. Chevauché, transition qui me ramène à celle du lieutenant Blueberry. Oui, Blueberry, en français. En français, on prononce toutes les lettres. Blue, ça fait bleu.
C'est B-L-U-E.
BLUE, bluette, par exemple. Bluée. Je n'ai pas une bluette, je vous racontais des bluettes. Non, j'ai des bluettes.
Bon. Sinon, pas alors, ça.
Blueberry.
Alors, ceci, ça me ramène, disais-je, à Blueberry, dans Amertume Apache. Et je tenais à vous féliciter, monsieur Sfar, pour avoir remis brillamment à l'honneur un ancien combattant. Ah oui. Quand le lieutenant Blueberry est apparu en 1963 dans Fort Navajo, tous ici, tous, à part Nagui, vous n'étiez pas nés.
Mais c'est vrai.
Et vous non plus, monsieur Sfar. Et donc, il m'a plu tout de suite, ce lieutenant. Déjà, parce qu'il en a dans le froc. Mais aussi parce qu'il est l'amant de la femme de son supérieur hiérarchique.
Ah, tu balances tout, toi?
Exactement, comme je fus l'amant de la femme d'un général, dont je ne peux pas révéler le nom, mais petit indice, il en a deux là où Morin a déjà du mal pour en avoir une. Elle me manque tellement.
Des étoiles, peut-être?
Non, une particule. Elle me manque tellement. Yvonne. Bref, avec Blain, vous signez là un western de première bourre, western moderne, où l'histoire n'est plus affirmée sur le mode de l'épopée gravée de certitude, mais où, dans le héros anticonformiste, s'incarnent des valeurs morales transcendantales, la bonté, la justice.
C'est moi où on comprend.
La qualité du commentaire. Évidemment, vous pouvez pas comprendre, c'est tellement élevé. La qualité, la finesse. Oui. Leïla me disait juste avant l'émission.
Oui, sans doute.
Très très cher maréchal. On n'est pas prêt d'entendre trop une analyse cher. Aussi fine, aussi percutante, venant de la bouche verbeuse de Laurent Delmas et de Christine Masson dans On aura tout vu. Et Nagui d'ajouter en ricanant.
Oui.
Ils ont peut-être la prétention d'avoir tout vu, mais en chemin, quand ils seront virés de l'antenne, eux, on les verra plus du tout. Voilà, c'est ça aussi la bande originale, l'amour de Blueberry, mais aussi du sarcasme gratuit et de la rosserie. Bonne émission quand même.
Merci, Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Attendez à ce que vous disiez, Maréchal, le lieutenant Myrtille.
Bien sûr.
Blueberry reste...
C'est mignon.
Reste Myrtille. Ouais, alors que Blueberry...
Myrtille.
Je sais moins... Mais le berry, alors d'un coup, où il est allé chercher Blueberry?
Il y a du sang dans le Blueberry.
Est-ce qu'on connaît l'étymologie ou l'origine de ce choix de personnage?
Non, moi les noms de personnages dont on m'a parlé, c'est que j'ai donné plein de noms bibliques à tous les bouseux qu'on voit autour.
Il y a un pasteur.
Et le premier journaliste que je vois me dit « Ah, t'as pas pu t'empêcher de mettre des juifs partout ?» En fait, non, c'est des prénoms bibliques comme il y a chez les Quakers et les machins, parce que je voulais pas des cow-boys qui s'appellent tous John et Jim, justement. Et voilà. Mais je sais pas pourquoi il s'appelle Blueberry, ça lui va très bien en fait.
Oui, enfin on se pose même plus la question. Son cheval s'appelle le Piggy.
Oui, mais ça on l'a pas inventé. Parce qu'on dit, oui, vous avez donné un nom au cheval, ça c'était dans les albums. Hein. Il s'appelle comme ça dans les albums, son cheval aussi.
Il s'appelle Cochon.
Oui.
D'accord, ok. Il est pas très 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 sympa d'ailleurs.
Dès le début, on voulait montrer qu'il perd pied le cow-boy. Son cheval lui obéit pas. C'est là que ça commence à dégringoler. C'est son cheval lui obéit pas.
Oui, sauf que contrairement à l'image que l'on a du cow-boy, lui, il est honnête, il est pour la justice, pour l'équité. Alors que les cow-boys, ça reste quand même des salauds.
Alors le maréchal avait raison. C'est un militaire. C'est Christophe Lain a beaucoup insisté là-dessus. Il m'a dit c'est un militaire. Il est gradé, mais pas trop. Il a sous lui des hommes du rang et il a au-dessus de lui un supérieur. Ça, on l'a beaucoup mis en avant.
Puis il avait été chassé de l'armée aussi. Ouais.
Mais là,
il est un code d'honneur, c'est ça?
On l'entend à de nombreuses reprises dire « c'est pas à moi de prendre cette décision ». Ça, moi, j'aime bien qu'il fasse ce genre de choses, qu'il soit limité par son métier. Et l'idée du western militaire, ça, on l'avait en tête tout le long. L'idée aussi de la frustration sexuelle, ils sont tous dans un fort, il n'y a qu'une seule nana. Il se retrouve quand même à dire à la femme du commandant « Madame, ce qu'il y a entre nous, ça s'appelle pas de l'amour ». J'aime bien dire ce genre de choses.
Vous parlez de frustration sexuelle, j'appelle ça Alexis Le Rossignol.
Non.
Ça va les amigos?
Oui.
J'en place Guillermo aujourd'hui. Ça va les amigos, c'est pour ça? Ça va Ernesto?
Je serai là aussi demain. Hein. D'ailleurs, vous êtes tous habillés comme demain. Et demain, je ferai une doudoune, une critique. Pardon, je ferai une chronique sur la doudoune sans manche de Daniel.
Non,
à moins que Tanguy me pique l'idée. Je comprendrai demain cette vanne-là.
Quel enfoiré.
Je suis content parce que j'adore remplacer les chroniqueurs absents. Je sais que le vendredi, il y a une chute des audiences quand c'est mon tour. Mais là, je me dis avec un peu de peau, ils vont croire que c'est lui, ils vont écouter jusqu'au bout. D'où cet accent belge que je fais bien, non?
Ouais, c'est pas mal.
En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, Leïla, Daniel, Albert et le public aussi. Vous le savez pas, mais quand Radio France est en grève, moi, je m'ennuie, j'écoute en boucle les 24 émissions où on a reçu Edouard Baird. J'essaie de trouver les réponses aux questions du début de l'émission, mais j'y arrive pas. Ça me donne envie de crever dans la bouche de Michel Houellebecq. Hier, en écrivant ce papier, je me suis dit, Alejandro, fils d'anémone et d'une couche pour adultes usagés, le grand gagnant de la grève, c'est toi, tu te déplaces à vélo, t'as une réserve de bulots surgelés dans ton frigo, ça va, la grève, elle peut durer, quoi.
Tu lui as piqué les phrases, c'est honteux.
Ah, je les ai inventées quand même, hein.
Dans le style.
Bon, j'arrête là parce que l'imitation d'Ernesto me fatigue et j'ai peur de faire une syncope. C'est pas mon rythme naturel. Un peu plus de douceur pour vos oreilles, messieurs. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai parfois l'impression d'être une rustine de remplacement dans cette émission, hein. Une rustine qu'on met là, faute de mieux. On m'a demandé si je pouvais faire l'émission hier soir à 22h30. Vous trouvez pas ça louche, qu'on me prévienne si tard? Hein, en tout cas, si vous attendez de moi une chronique engagée, vous serez déçus. À mon avis, ça s'est passé comme ça. Vous vous êtes dit, Guillermo et Fanny sont bloqués en Belgique. Agnès est enceinte depuis 3 ans et demi. Marina et Jérémy, à peu près. Hein,
et on l'embrasse.
C'est vrai qu'on l'embrasse. Il doit y en avoir plusieurs. En attente. Marina et Jérémy ont une vie en dehors de la bande originale, genre faire des films ou jouer dans des salles pleines, tu vois. On va appeler Rossignol. Je suis sûr que vous dites même pas le Rossignol. Alors, j'ai l'impression d'être une rustine, oui, mais je le prends pas mal. D'une part, parce qu'on m'a clairement fait comprendre que c'était le cas. Et d'autre part, parce que, comme l'a dit le célèbre dicton africain, ça fait longtemps, hein, tiré du livre Les meilleurs dictons africains, aux éditions J'achète, dans la vie, il vaut mieux être la rustine qui bouche le trou que le trou qu'il faut boucher.
Eh ouais.
On s'est compris.
Oui.
Voilà.
Enlève-la l'image, enlève-la.
Ah merde, j'avais même pas vu qu'il y avait une image, effectivement. Ouais. Ouais, c'est... Bon, sinon, je suis allé jouer à Lille la semaine dernière. Très sympa, Lille. Vraiment, les gens sont adorables. En même temps, ils ont la pression parce que tout le monde dit qu'ils sont sympas. Donc, ils doivent se sentir obligés de l'être pour pas ternir leur réputation. Mmh. À Paris, c'est l'inverse. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens de... sympas à Paris, mais ils font la gueule à cause de leur réputation aussi. Voilà. Moi, je suis pas parisien, mais depuis que je vais ici, parfois, j'insulte des gens juste pour pas être démasqué. Tu vois. Bref, j'étais à Lille et après le spectacle... j'ai rencontré des Lillois. Mais le problème des Lillois, c'est qu'ils ont aussi la réputation d'être alcooliques. Alors, ils boivent beaucoup pour tenir cette réputation. Moi, de mon côté, je faisais la gueule pour donner le change, mais ils continuaient à être sympas et à me payer des coups. À un moment donné, je leur ai dit, allez les connards, moi, je vais aller dormir parce que demain, s'il n'y a pas grève à Radio France, je dois y être à 11h. Eh ben, le lendemain matin, je me suis réveillé à 11h. Je me suis dit, merde, j'ai raté le petit-déj. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. S'il y a un truc que j'aime pas rater, c'est le petit-déj dans les hôtels. Surtout quand c'est compris dans le prix de la chambre. Parce que t'as payé pour ça, c'est quand même, tu passes à côté, quoi.
On va gâcher.
Je me suis dit, Alex, enfile un slip, descends en cuisine, ils vont bien te donner un truc. Je sais pas pourquoi j'avais dormi nu. D'habitude, je garde toujours mon slip. Surtout quand j'ai pas prévu d'en changer.
Oh non, j'ai encore l'image.
Je partais pour une nuit, j'avais pas pris de change, quoi. Bref, je suis descendu.
Ça prend tellement de place,
c'est un slip, ouais.
C'est vrai. Je suis descendu et ils ont été sympas. Bon, ils n'ont pas de mérite, c'est leur réputation. Ils m'ont donné du pain et un petit beurre. Mais pas un petit beurre à tartiner, un biscuit petit beurre. Et ils m'ont nourri comme un pigeon, en fait. Bon, j'ai rien dit, c'était mieux que rien. Mais pour info, un petit beurre dans du pain, ça ne remplace pas du beurre. Hein, c'était... Franchement, à tartiner, c'est chiant. Et en plus, c'est sec. J'ai eu du mal à finir ma tartine. Voilà.
Du mal à finir la chronique aussi, non ?
Heureusement qu'il y avait grève, sinon je serais arrivé en retard. Allez, bonne émission, monsieur.
Merci, Alexion.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Merci, le Rossignol, au point virgule, toujours jeudi, vendredi, samedi, 19h.
À 19h.
Et voilà. Garde tes fringues pour demain aussi, t'en veux pas. La bande originale de Johan Sfar, nous parlons de Blueberry. Une nouvelle aventure du lieutenant Blueberry, co-signée par Johan Sfar et Christophe Blin. Ça s'appelle Amertume Apache aux éditions d'Argo. On évoquera également Le Chat du Rabbin avec La Reine de Shabbat, qui est publiée au Poisson Pilote, signée entièrement par Johan Sfar, sans qu'aucun pote ne vienne lui interdire aucune vanne.
Et lui dire que c'était pourri.
Et le laisser enfin heureux. Heureux aussi d'écouter quelle musique ? Par exemple, dans les années 70.
Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi.
Michel Delpech, ça fait partie des musiques que vous entendiez enfant.
Je savais pas que c'était Michel Delpech, mais c'était la musique du manège quand j'étais petit. On m'emmenait au manège et il y avait ça. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais ça me plaisait beaucoup.
Et saviez-vous, moi j'ai appris en préparant, chers camarades, que Sfar venait de Sofar, qui a une signification en hébreu.
Bah en anglais déjà.
Alors si c'est de l'hébreu, oui, ça peut être le scribe, le Sofer, c'est celui qui est... Et si c'est de l'arabe, ça peut être jaune, c'est pour les chaudrons, pour les chaudronniers.
D'accord.
Pour le soufre.
Et si c'est en anglais, c'est si loin, Sofar.
Très bien, très bien.
C'est celui qui calligraphie, je crois, les rouleaux de la Torah.
C'est vrai.
C'est ça. Tout à l'heure, on avait parlé de l'entrée de la synagogue. Naissance en 71, Johan Sfar, avec de l'art déjà présent dans la maison, puisque votre mère était chanteuse.
C'est vrai.
Elle a sorti plusieurs albums.
C'est vrai.
Chez Barclay, je crois. Oui. Vous avez en tête des mélodies. C'était quel genre de musique ?
C'était du pop. C'est une chanteuse pop. Quoi.
Ouais.
Et non, elle a sorti deux disques et elle est décédée quand j'étais petit. Donc je les écoute, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Mais c'était quelqu'un qui chantait tout le temps.
Ouais. C'était. Et vous, c'est une habitude que vous avez gardée ? Vous chantonnez ?
J'ai une fascination pour tout ce qui est pop, tout ce qui est chanteur, tout ce qui est icône. J'ai pas fait pour rien le film de Gainsbourg. J'étais resté avec j'ai une fascination pour l'idée des starlettes, quoi.
Ouais. Et la bande dessinée, elle vient aussi de la famille. Je crois que votre grand-père maternel vous a appris à lire dans des BD.
Ouais, il me faisait lire du Conan le Barbare, des 4 Fantastiques, des super-héros, et il mélangeait ça avec aussi des vrais livres. Il y avait Homer et il y avait Jack Kirby à la maison.
Lui-même aimait ça, les bandes dessinées.
Il aimait beaucoup. On les achetait ensemble et il trouvait que Conan, c'était formidable. mais on lisait surtout des trucs américains.
Ouais, ça vous tenterait de faire un jour un album en reprenant un des héros préférés de votre grand-père, ou en tout cas essayer de...
Ah ouais, moi les super-héros et tout, ça me fascine, mais un jour peut-être.
Ouais.
Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit que lorsque vous écoutiez votre maman, réécoutiez votre maman, c'est compliqué. On imagine, oui, toute l'émotion qui doit vous...
Bah c'est pas ça, c'est que je m'en souviens pas.
Vous envahir. Non, mais j'ai bien compris que vous étiez trop petit. Mmh. Mais est-ce que c'est l'émotion d'entendre une voix et est-ce que vous ressentez quelque chose qui vibre en vous parce que
C'est bizarre.
C'est dans vos gènes.
Oui, c'est bizarre.
Sans l'avoir vécu.
C'est bizarre. Et puis quand ma mère est décédée, elle avait 26 ans, maintenant j'ai 48 ans, donc c'est très difficile d'entendre la voix d'une jeune femme et dire voilà, ça c'est ma mère. Donc, j'ai une camarade psychanalyste dont elle m'a dit mes deux parents sont partis à Auschwitz, ils sont pas revenus. Elle m'a dit toi et moi, on a la chance d'être orphelins. C'est une drôle de manière de voir, mais c'est une manière de s'emparer de son histoire aussi et de se dire bon, bah voilà, moi, mon histoire, c'est comme ça.
Et de la construire comme ça.
Et oui, ça pousse sans doute à raconter des histoires, à faire parler des personnages.
Absolument. Mais j'imagine que vous ne réécoutez pas la voix de votre maman par hasard. Donc, quelle est la démarche de réécouter disque?
Moi, je réécoute jamais. Les rares fois où j'ai réécouté, c'était dans des émissions où des gens pensaient me faire plaisir en me le faisant entendre. D'accord. Ça me faisait très, très moyennement plaisir.
Ok, d'accord.
Et je vous remercie beaucoup de ne pas l'avoir fait.
Très bien. Bon, on le passe pas alors. 1989, vous n'écoutiez pas, pardon. C'est nous qui avons choisi, parce que c'était un tube à l'époque, les Woomack & Woomack. On est toujours à Nice.
On est toujours à Nice. Vous dessinez, vous aimiez déjà le dessin beaucoup, et pourtant vous décidez d'aller à la fac et de faire des études de philo.
Ouais, pour rassurer mon père, parce que le dessin, il était pas contre, mais il était pas pour non plus, quoi.
Ouais, mais vous aviez un véritable appétit pour la matière, ou c'était juste pour...
Bah, c'était ça ou du droit. Donc j'ai pris philo.
Ah ouais, c'était vraiment un bon hasard.
Il m'a dit qu'il voulait que je fasse des études sérieuses. Moi, j'avais qu'une peur, c'est de devenir avocat comme lui. Enfin, c'était un très beau métier, hein, mais moi, je voulais pas faire ça. Ouais. Donc je suis allé en philo.
Vous avez fait science, on se serait croisés à Valrose tous les deux.
Ah bah oui, ça aurait pu.
Valrose?
Mais oui.
Et c'est des années heureuses plutôt,
c'était
parce que
formidable.
Vous avez croisé des enseignants vraisemblablement assez inspirants.
J'ai rencontré là-bas Clément Rosset, qui est un des plus grands philosophes français, et j'ai beaucoup appris, en particulier j'ai appris à abandonner la philo grâce à lui. Il m'a dit vous feriez mieux de faire des bandes dessinées.
Il aime la BD, beaucoup.
Il adore la BD.
Mais vous dessinez en cours?
Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Il m'avait mis 3 sur 20, Clément Rosset. Et il m'avait écrit, j'ai retrouvé une disserte, le seul commentaire c'est calmez-vous.
Ça veut dire quoi ça?
Je sais pas, je devais être énervé. Mais c'est une époque, c'est quand on est jeune, on s'imagine que ce qu'on dit a de l'importance et qu'on va changer le monde et tout ça, c'est fini là. Après, au moment, on plus ceux qui y croient encore passé 40 ans, c'est des gens très inquiétants.
C'est triste ce que vous dites.
Non, c'est pas triste, c'est vrai. C'est quand vous voyez un abruti qui arrive à la télé et qui dit oui, je crois vraiment à ce que, vous savez déjà que c'est une ordure. Vous êtes sûr que c'est une ordure. Le mec qui fait semblant d'être convaincu par ce qu'il dit quand il parle politique passé 40 ans, c'est une ordure. Parce que le vrai...
Mais c'est quoi votre théorie?
Le vrai, il sait très bien que c'est un petit théâtre, qu'on va tous crever. La seule vraie différence entre...
À 40 ans, on peut encore changer les choses dans la vie, heureusement.
Moi, mon auteur préféré, Hugo Pratt, a écrit une autobiographie qu'il a appelée « Le désir d'être inutile ». J'aime beaucoup. Je crois qu'il y a des vagues de haine. Récemment, on m'a dit « Vous n'avez pas émis d'opinion sur le texte de l'Assemblée nationale contre l'antisémitisme ?» Enfin, on est encore dans un monde où on croit qu'on va faire des textes contre l'antisémitisme, et il y a des vagues de haine, on n'y peut rien. Vous avez remarqué que les mêmes gens qui disent...
Si tout le monde pense comme vous, on fait plus rien. Quand on a la sagesse d'un Hubert Reeves qui vient à ce micro nous dire ce qu'on peut faire pour la planète...
Mais je crois pas que les vieux soient plus sages que des jeunes, je crois que c'est une arnaque. Moi je suis croyant, je suis pas croyant.
J'ai pas dit que c'était son âge qui lui donnait sa sagesse.
Là, c'est beau, il est vieux, il a raison.
Non, j'ai pas dit ça. Le seul gros avantage, entre guillemets, c'est qu'il reconnaissait les erreurs commises dans le passé quand il était pro-nucléaire, par exemple. Et qu'il rectifiait ça en disant maintenant avec l'expérience je me rends compte que j'ai fait des bêtises.
Les hommes sont pas capables de faire ça.
Moi ce qui m'ennuie c'est l'enfonçage de portes ouvertes. Par exemple, on est tous d'accord qu'il y a eu 2000 ans de patriarcat et que c'est formidable que les femmes se libèrent. On est tous d'accord que la planète va crever et qu'il vaut mieux essayer de la sauver. Ce qui m'énerve, c'est qu'alors qu'on le sait tous, on est tous d'accord.
On n'est pas complètement tous d'accord.
C'est ça le problème.
J'adorerais que tout le monde soit d'accord.
Vous connaissez une personne qui n'est pas d'accord pour qu'on sauve la planète et pour que les femmes se libèrent?
Trump,
je connais pas.
Moi, Trump, j'en connais
pas. Moi, j'en connais
pas. Donald Trump, déjà.
Non, mais oui, alors voilà, il y a ça.
Il y a ça, effectivement.
T'en veux un, il y en a un. Mais il y en a un qui influence des millions de gens.
Mais ce qui m'ennuie, c'est quand on est dans un plateau où on est tous d'accord, parce que globalement, sur les plateaux, on est en général
Et
t'en as un qui arrive, tu te dis, vous vous rendez pas compte, c'est très grave. T'es là, oui, non, mais on est tout à fait d'accord, parce qu'on est d'accord avec toi, arrête de crier, moi c'est plutôt ça.
D'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Mais malheureusement, il y en a trop qui sont climato-sceptiques, il y en a même qui pensent que ce sont des reptiliens qui nous dirigent et que la Terre est plate. Et que
ça, c'est vrai. Ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas.
Ok, d'accord.
C'est un secret.
En 2002, qu'est-ce qu'il y avait comme succès à ce moment-là? Dao et Dani. Je sens des bombes et des bangs agités.
mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
Petit clin d'œil à Gainsbourg, évidemment. Eh ouais, c'est lui qui avait fait cette musique et qui l'avait écrite pour Dany. Elle devait chanter à l'Eurovision et finalement ça n'avait pas été le cas.
Et 2002, c'est la création d'un, voilà, d'une grande saga BD, Le chat du rabbin, l'histoire de ce chat qui tout d'un coup est doué de la parole, qui est complètement amoureux de sa maîtresse Labia et qui demande à faire sa bar mitzvah pour aller dans son sens. C'est ce personnage qui vient d'Imhotep, votre chat, je pense.
Bah oui, puis à un ou deux ans près, ma fille est née, donc ma première enfant, et ma grand-mère d'Algérie est décédée, et j'ai voulu mettre les histoires de ma grand-mère dans un récit. Comme je suis ni religieux ni communautaire, je voulais qu'il y ait un truc de juif et d'algérien à transmettre à mes enfants, et je me suis mis à faire le chat du rabbin. Mais c'était très consciemment dans une idée, je sais pas si c'est de transmission, mais en tout cas, de créer un conte de fées sur le Maghreb. Parce qu'en général, pareil, à chaque fois qu'on vous parle du Maghreb, c'est toujours un problème. Attention, ouais, on va parler du Maghreb. Alors, quand malheureusement tu viens de là, t'aimerais bien que des fois ce soit un peu féerique.
Ouais, ouais. Et qui est plus de lâcher prise.
T'aimerais bien le monde où, ah chouette, on va vous parler du Maghreb.
Sourire, voilà. Et le chat s'inspire aussi en partie de votre grand-père maternel.
Ouais, parce que
qu'est-ce lui, que vous avez mis de lui ?
Lui, il mettait des vacheries. Lui, c'était les vacheries. Il avait fait des études pour être rabbin, mais finalement, il a fait médecin et il était très, très anti-religieux. Donc, il écrivait des grossièretés en hébreu partout.
Et il a été naturalisé, il faut peut-être raconter son histoire.
Il est devenu français en 44, ouais, parce qu'il avait, il avait eu coup de bol, il avait soigné un mec dans la brigade Alsace-Lorraine, et coup de bol, c'était Malraux. Et André Malraux a fait une lettre en disant « service rendu à la patrie », parce que Malraux se voyait comme un très bon écrivain, et mon grand-père a soigné la main droite de Malraux. Non, mais Malraux, c'est super, hein, je fais des vannes, attention, Malraux, c'est super. Le jour où on aura un ministre de la Culture niveau Malraux, aujourd'hui, on ira bien. C'est en danger, hein. Malraux a décidé que ça allait être un peu sanctuarisé, la culture, maintenant c'est en train de devenir très privatisé.
Arrêtez,
attention.
Vous avez des certitudes là. Vous avez plus de 40 ans. Pourquoi vous permettez de dire des choses comme ça ?
C'est vrai, vous avez raison. Les rares fois où on se met à être motivé par un truc, faut tout de suite se calmer. Non, mais c'est très bien. Ouais. C'est vrai. Ouais. Voilà.
En 2011-2012, le succès était à ce moment-là avec Iz. Une reprise évidemment, Over the Rainbow, c'était la bande originale d'un film, et justement c'est le cinéma qui est au rendez-vous, ouais. C'est Magicien d'Oz, et le cinéma est au rendez-vous de la carrière de Johannes Farr.
2011, c'est César du meilleur premier film pour Gainsbourg, film qui est aussi récompensé par le César du meilleur son, Eric Elmosnino devient aussi, remporte le César du meilleur acteur, et puis l'année d'après, comme on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va reprendre encore un César, hein, pour cette fois-ci Le chat du rabbin pour le meilleur film d'animation. Deux années, coup sur coup, on doit être complètement sur un petit nuage.
Ah oui, c'est le moment où je pensais que ça allait être très très facile, le cinéma.
C'est vrai qu'après
la sortie du Gainsbourg, on m'a fait venir à Londres, et il y a un producteur qui m'a proposé un biopic sur Queen, et j'ai dit non, je connais pas trop.
Non.
Moi, je pensais que ça allait être très facile.
Et c'est ce qui est devenu Queen Bohemian Rhapsody.
Non, parce que moi, j'étais Universal, moi, c'était d'autres gens, et c'était avant. Mais non, moi, je pensais que ça allait être très facile, le cinéma. En fait, je pense qu'ils te donnent plein de Césars au début pour que tu t'y ailles à fond, et après, c'est une énorme galère pour monter des films.
Et pourquoi dire non à Queen?
Parce que je suis un débile.
Ouais, mais le western aussi.
Non, mais ça m'intéressait vraiment.
C'est-à-dire que si je connais pas,
moi
je connaissais We Will Rock You, mais à part ça j'ai jamais écouté Queen, alors j'allais pas faire semblant.
C'est tellement dingue Queen.
Bah oui, mais moi c'était Genesis, rock progressif, Peter Gabriel, je me rasais la tête pour faire comme Peter Gabriel. Enfin c'était l'heroic fantasy déjà moi, le rapport à la musique.
Bon. Je suis déçu.
Ouais, c'est ça. Ça veut dire que vous en êtes totalement revenu du cinéma ?
Mais non, pas du tout. Moi, plus on me dit non, plus je m'accroche. On sort le dessin animé de Petit Vampire en octobre prochain. Justement, la même équipe son que le Gainsbourg. Et puis, j'essaie de faire un film sur le cambriolage de Kim Kardashian.
Il y a eu un vol de bijoux,
oui,
c'est ça ?
Oui, j'en fais une BD qui sort en mars, on m'a acheté la BD avant qu'elle sorte.
Est-ce qu'on sait tout de cette histoire ou pas ?
Non, moi, je m'en fous, moi,
j'en sais rien. On en est où ? Daniel, toi qui es...
Moi qui connais Kim,
personnellement.
Non, mais on a retrouvé
les mecs qui ont fait ça.
Et on a retrouvé le mec qui a fait ça ? D'accord. Donc, c'était pas un coup monté de Kardashian pour toucher l'assurance, tout ça ?
Oui. Écoute, je sais pas là, mais je sais qu'ils ont retrouvé les gars, ils ont retrouvé les bijoux.
D'accord.
Okay. Et donc vous allez faire un film là-dessus ?
Ouais.
Non, c'est une vanne ou c'est
non, c'est pas du tout.
Non,
c'est
pas une vanne.
C'est fascinant. Mais vous, le sourire que vous faites.
Mais je trouve que c'est fascinant. La nana la plus puissante du monde en pleine période d'empowerment, qui en un instant passe la pire journée de sa vie parce qu'un type ouvre et lui pique ses bijoux. Et puis peut-être la Brigitte Bardot d'aujourd'hui, c'est elle. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse de la montrer en situation de fragilité.
C'est le côté starlette déstabilisé qui vous intéresse.
Oui, puis c'est le fait qu'on donne aujourd'hui le pouvoir à une personne aussi étrange que Kim Kardashian. Elle est fascinante. Ouais. C'est pas. Il y a des gens dont la célébrité est une évidence. Elle, pas du tout.
Il y a un très beau portrait d'elle par Simon Liberati, qui a fait tout cet été des stars comme ça et qui décrypte le personnage Kardashian, et c'est assez fascinant en effet quand on s'y penche.
Ça résume l'époque.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle elle n'a rien fait?
C'est la question de l'intime. C'est, elle passe son temps à montrer des photos de ses bijoux en disant « Oh, je suis toute seule, je suis à l'hôtel, il y a mes bijoux, ma sœur est partie, quel dommage que je sois toute seule à cette
le
adresse. »
Le code après, des 92-10.
Qu'est-ce que c'est la célébrité quand on laisse entrer les gens partout? Qu'est-ce qui reste d'intimité à cette nana? Et pourquoi elle y parvient alors que rien d'autre y parvient pas? C'est génial.
Pourtant, c'est le culte du rien, c'est-à-dire qu'elle n'est ni chanteuse, ni comédienne, ni sculpteuse, ni peintre.
Elle est femme d'affaires maintenant, elle est maligne.
Mais voilà, ce que j'allais dire, c'est que maintenant, elle a monté un business en partant de rien.
Mais une sextape.
Oui, mais elle.
C'est vrai?
Initialement, c'est une sextape.
C'est sa maman qui a publié sa sextape.
Ouais, c'est vrai.
Non.
Mais c'est extraordinaire.
Elle a fait le montage.
Et elle a réussi, mais elle réussit aussi à populariser son physique, qui n'était pas le physique à la mode quand elle est arrivée. Au début, elle était faire valoir de Paris Hilton. Elle l'a écrasé, Paris Hilton. Elle l'a avalé, je ne sais pas avec quel orifice, mais ça
avait commencé aussi par une sextape.
Mais c'était plus.
Et puis elle s'engage aujourd'hui, parce qu'elle est quand même la fille de l'avocat de J. Simpson. Donc elle avait suivi toute cette affaire de près. C'est elle qui a permis la libération, la grâce d'une femme américaine récemment. On a l'impression qu'elle est partie pour être avocate et pour être femme politique, enfin, elle a une ambition.
Et pour continuer dans les questions graves, cette année, elle a sorti un maquillage vaginal. La photo où tu la vois qui sourit pendant que quelqu'un est en train de lui faire un maquillage vaginal, et tu te dis, ça a dû se vendre ce truc. C'est comme la banane sur le mur à la foire d'art contemporain. Si tu veux, quand tu prends les gens pour des cons, qui t'applaudissent et qui payent, tu te dis, ok, là, il y a toute l'époque, on va faire une histoire dessus.
Ouais, alors je suis pas d'accord pour Maurizio Cattelan parce que c'est un artiste déjà confirmé. Il a fait plein d'autres œuvres.
C'est vrai qu'il a fait un chiot en or.
C'est pas du foutage. C'est pas du foutage de gueule.
Il y a un concept,
il y a une histoire, il y a quelque chose.
Mais c'est un énorme fuck et tout le monde est ravi. Les gens disent c'est absurde, il a raison, payons 150 000 dollars. Mais j'adore.
120 000 dollars.
Ouais, tout ce qui est absurde, je suis pour.
Mais il y a 150 000 dollars, ouais, c'est vrai que ça peut dépasser l'entendement, surtout.
Ça dépend du concept. Regardez, si on prend le bidet du chant, c'est aussi, ça dépend du
concept. Mais c'était il y a 100 ans, c'est du remake.
C'est pas la question. Et ça donne lieu à une performance derrière et on en parle tous et on est tous au courant et cette œuvre, du coup, prend de la valeur. Donc c'est comme ça le marché.
C'est un vieux débat.
Le vieux débat, c'est quoi? De ne pas avoir été le premier
C'est un bégaiement permanent d'un art spectaculaire et marchand.
C'est pas un bégaiement. En tout cas, c'est une réécriture, c'est une autre façon de voir les choses. Enfin, on ne peut pas dire que la pensée d'un artiste...
Non, mais c'est une photo
artiste...
de notre époque, il n'y a pas non plus de quoi être fier.
Non, mais par contre, l'art, c'est
Il y a des gens qui crèvent de faim, mais qui payent 120 000
À ce compte-là, si tu veux, on fait pas de cinéma, on fait pas de film, on fait pas de BD, on n'imprime pas sur des... Bah si, il y a des gens qui crèvent de faim.
Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir.
Mais ça veut dire quoi? Faire des films, c'est pas moins grave. Faire des films à 6 millions d'euros, par exemple, c'est pas un scandale.
Sur une banane en plus.
Il y a combien de gens qui peuvent se payer le film? Des millions de gens.
Si je suis
ce raisonnement. Combien peuvent se payer cette banane?
Mais est-ce que tu as besoin de la payer? Non, mais le film, tu le possèdes pas, tu le vois. Et après, t'appartiens plus.
La toile, tu le possèdes pas.
La toile, tu la vois.
La toile, tu peux la voir.
Tu la vois, c'est tout. Et là, tu la vois gratuitement.
Non, la banane, il l'a bouffée.
C'est gratuit. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais on peut pas discuter de l'art et de ceux qui payent ou qui achètent de l'art en disant il y a des gens qui meurent de faim, donc il ne faut pas qu'il y ait de mécènes.
Je te laisse la responsabilité de dire le mot art. On peut considérer que ça n'en est pas. Là, on est dans la subjectivité la plus totale.
Non, ça en est.
Banane clouée sur un mur, c'est une œuvre d'art.
Tu peux dire.
Je te laisse la liberté.
Non, tu peux dire. C'est gentil. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Tu peux dire ça ne te touche pas, ça ne parle pas.
Voilà, moi, ça ne me touche pas du tout.
Mais ça ne me touche pas non plus. Mais à côté de ça,
je ne dis pas que tu as de l'émotion en voyant cette banane clouée sur un mur.
Non.
Moi, j'ai de l'émotion quand je vois le prix.
Mais est-ce que le but de l'art.
Non, j'ai chialé.
Albert, est-ce que le but de l'art, c'est de donner de l'émotion? Non. Ça peut être le but de faire réagir.
C'est le premier but.
Ben non.
Capacité à transmettre l'émotion.
Et non, ça peut te faire réfléchir, ça peut te faire penser, ça peut te faire réagir comme tu réagis là, et ça marche.
Mais l'émotion, c'est de la réflexion aussi.
T'es pas indifférent, donc ça veut dire que tu réagis.
Ben oui.
Et ben c'est de l'art. L'émotion, c'est de la réflexion. On peut dire que c'est de l'art. On peut dire que c'est de l'art.
Et autrement, l'album Blueberry.
Oui, c'est ça.
Bon, non, mais je sais pas pourquoi on en parlerait. Hein. Non, on va parler plutôt avec Patrick Brion. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Tellement on vous aime, on est ravis de vous accueillir, Patrick. Vous présentez l'émission de du cinéma de minuit sur France 5.
Oui.
Lundi soir.
Ouais. Et puis, alors j'arrive même pas à le soulever avec un bras, tellement il est lourd. L'encyclopédie du film policier et thriller, c'est publié aux éditions Télémax. C'est toujours de sublimes ouvrages, une iconographie incroyable, des textes riches. C'est étoffé, c'est passionnant, c'est documenté. Voilà, c'est une bible à avoir absolument.
Rien sur le film des Kardashian. Mais bon, voilà,
vous pourrez
corriger plus tard.
On attend. Rien sur la banane.
On voulait parler avec vous des westerns. Est-ce qu'on, d'abord, on arrive à dater le premier western de l'histoire du cinéma?
Oui, c'est... Oui, c'est le vol du Rapide, c'est 1912, un truc comme ça, à peu près, oui.
Est-ce qu'il y a une définition du western? Est-ce qu'un western, c'est simplement dès l'instant où il y a un cow-boy avec un revolver, on dit que c'est un western, ou il y a des codes, justement, auxquels il faut répondre, qui sont un peu plus précis?
Au départ, c'était des immigrants qui partaient de l'Est vers l'Ouest, et qui, en chemin, rencontraient des Indiens, des bandits, etc. Des fleuves qu'il fallait
traverser,
passer, des montagnes, etc. Et ensuite, il est monté, c'est devenu la rue vers l'or, il est descendu, c'était à l'amour, et puis, puis ensuite, il est passé en Europe.
Alors, est-ce que...
Pas pour le mieux.
Ouais. Est-ce que le... Dans les westerns, il y a eu un côté très manichéen, où les gentils, c'était forcément les cow-boys, les méchants, c'était forcément les indiens. Il y a eu l'inverse aussi. Après, il y a eu des films que l'on peut qualifier de western, où ce sont les Indiens qui avaient enfin le beau rôle.
Au départ, le western, c'est la conquête du sol. Conquête du sol, pour conquérir un sol, il faut malheureusement chasser celui qui est l'ennemi. Et il faut se maintenir.
Qui est l'ennemi pour l'envahisseur. Parce que
l'ennemi pour l'envahisseur, absolument. Oui.
Historiquement, ce terrain leur appartenait, ils vivaient là depuis des générations.
Oui, absolument. Ouais.
Donc c'est vraiment
le western, au début, c'est ça. Mais il y a eu tout de même, dès les années 35-37, des westerns pro-indiens. Curieusement, qui dénonçait le génocide, qui dénonçait...
C'est quoi, Little Big Man? C'est un...
Non, c'est beaucoup plus tard.
Ah, pardon.
Ça, ce sont les westerns révisionnistes, enfin. C'est le moment où c'est devenu à la mode. C'est le moment où on ne voulait plus tourner de western. Au moment où les grands cinéastes westerniens, John Ford, Wellman, Walsh, Attaway, étaient morts, pratiquement. Où les grands acteurs étaient vraiment devenus vieux. John Wayne, James Stewart, Henry Fonda, etc. Et toute une nouvelle génération de cinéastes, avait vu trop de mauvais westerns à la télé, noir et blanc, et ils n'avaient pas envie de recommencer ça. C'était le moment en plus de la guerre du Vietnam, c'était tout de même très difficile de parler avec une espèce d'insouciance des guerres indiennes en pleine guerre du Vietnam. Donc ils se sont mis à faire des westerns, à tourner des westerns, où Buffalo Bill était un salaud, où Custer était un salaud. Le problème, c'est qu'ils étaient moins bien que ceux qui étaient à la gloire de Buffalo Bill et Custer.
Mais Little Big Man, c'est un super film. Pas mal, vous avez pas aimé?
Pas plus que ça, non.
D'accord, ok. Alors pour vous, quel est le meilleur western? Si vous aviez un top 3 des westerns?
Ben, on va rester dans le domaine de Custer. Ça serait La Charge Fantastique de Walsh avec Errol Flynn. Oui. Alors, c'est sans doute pas vrai, l'histoire, mais...
Mais le film est bon.
Comme disent les Italiens, c'est non over et ben trovato.
Si c'est pas vrai, c'est que c'est bien trouvé. C'est ça. Je sais plus où j'avais vu cette citation aussi de Boris Vian en disant cette histoire est vraie puisque je l'ai totalement inventée.
Film de Deniso.
Ah c'est ça, c'est au tout début du film de Deniso. Exact. Cette histoire est vraie, j'ai totalement inventé. J'adore. Donc là, on en a un de western. Avez-vous deux autres westerns à nous conseiller? Enfin, parmi les incontournables des westerns.
Bah, c'est un western de John Ford, c'est certainement La Prisonnière du désert, qui, quand il est sorti, est passé malgré tout inaperçu. On découvre au contraire vraiment ce qu'est les guerres indiennes, c'est-à-dire des gens, que ce soit John Wayne ou son adversaire, qui en temps normal, ce serait très bien entendu, qui ont eu les mêmes problèmes, il y a eu des morts dans leur famille, la folie des hommes et la folie de l'époque fait qu'ils sont devenus des ennemis, alors qu'en fait ils habitent tout pour être des amis en réalité. C'est très beau dans La Prisonnière du désert.
Le décor, la manière de réaliser ces films, d'avoir aussi ces chevauchées fantastiques avec des manières modernes de tourner pour l'époque, en tout cas, c'est-à-dire d'avoir du mouvement, d'avoir une lumière et un grain de la pellicule, tout ça, ça a joué à rendre culte ces films.
Alors, pas d'image de synthèse,
ouais.
Les acteurs qui faisaient vraiment des
cascades.
Des cascades, oui, où il y avait les cascadeurs, mais c'était des hommes qui faisaient des cascades. C'était pas l'ordinateur.
Voilà. Et puis des centaines ou des milliers de figurants quand il y avait des Forts Alamo et compagnie.
Oui, ouais. Alamo, oui.
Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans votre bande dessinée Blueberry, c'est la lumière.
Oui, il y a ça.
La de couleur.
Façon, Jean Giraud a suivi toute l'histoire du western à travers les albums de Blueberry et y voyageait d'un style à l'autre. Et Christophe Lin et moi ont choisi de retourner chez John Ford, d'aller vraiment dans ce qu'il y a de plus canonique, de plus western de cavalerie. Et on le fait parce qu'on sait que Christophe sait dessiner ça. Moi, j'en serais bien incapable de dessiner ça.
Il y a eu des Blueberry au cinéma, Patrick Brion?
Il y en a eu un.
Des Lucky Luke, des Blueberry, est-ce que ça... Alors, le passage déjà de la bande dessinée au cinéma, quelle est votre opinion, quelle est votre vue?
C'est rarement une réussite. Quand on aime beaucoup la bande dessinée... Et on...
Chabat avait réussi son Astérix quand même.
Oui, mais tous les autres n'étaient pas
ouais,
tout
c'est
le
vrai,
monde.
C'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous mettez la pression à Guillaume...
Deux genres très différents.
Vous mettez la pression à Guillaume Canet qui doit faire le prochain Astérix avec Gilles Lelouch.
Mais pourquoi pas, mais bon...
Faut voir.
Mais heureusement, on n'a pas encore adapté Blake et Mortimer.
Ah.
Ça, il ne faut pas toucher.
Eh ben, c'est prévu.
D'accord, il ne faut pas toucher.
C'est prévu depuis longtemps, mais la marque jaune, ça leur fait peur avec raison.
Est-ce que des westerns modernes, il y en a eu récemment, tout le monde, beaucoup de comédiens, de réalisateurs nous parlent des westerns en disant « je rêverais de faire des westerns », il n'y a pas qu'Audiard d'ailleurs, même le cinéma américain aussi. Ça, c'est un genre qui peut revenir? Qui revient déjà un tout petit peu.
Vous disiez tout à l'heure très justement que c'est un genre qui est moribond. Sinon mort. Il appartenait à une époque. L'époque de rêve d'or américain. Sa translation en Europe a rarement été tout de même en dehors des films de Léon et quelques-uns de grands succès. C'est une époque du cinéma. Il y a des périodes dans l'histoire des arts. Bon, ben, il n'y a pratiquement plus de comédie musicale. Il y a pratiquement plus de western. D'ailleurs, quand ils font des westerns, ils font des anti-westerns. C'est Tarantino qui tourne les choses extrêmement violentes.
C'est ça.
Bon, il vaut mieux regarder les westerns de John Ford.
Aux éditions Télémaque, Patrick Brion, encyclopédie du film policier et thriller, et aux éditions toujours Télémaque, l'encyclopédie du western. Au-delà du talent et de la qualité et du génie de Patrick Brion, moi je salue aussi la publication et votre éditeur qui vous soutient. Ce sont toujours de très beaux ouvrages. C'est de belles factures.
Mais j'essaie de le soutenir aussi. Ouais.
C'est ça, chacun se soutient individuellement. Parfait. Merci Patrick.
Merci.
À très vite. Tanguy Pastureau, vous êtes là pour la grève?
Oui, parce que je suis toujours du côté de ceux qui souffrent. C'est pour ça que je fais des câlins aux gens à la sortie des concerts de Céline Dion. Mais le problème, c'est que cette grève ne pénalise personne. Macron, que le métro soit fermé, ça lui fait une belle jambe. Et même ici, la playlist de grève, elle est top. Bien mieux que certaines émissions. J'ai mal à mon Krasuki.
Bonne journée, merci. Et bienvenue dans la bande originale. Léla
Gadeau-Boudani,
Daniel Morin,
bonjour, monsieur.
Albert Algou, Alexis Le Rossignol, Tanguy Bassureau,
bonjour.
Et notre invité Joanne Sfar. Alors, pendant les infos de Laetitia Gaillé, dans ce studio, l'éditeur Télémaque, en l'occurrence de Patrick Brion, est venu me glisser à l'oreille le pourquoi il s'appelle Blueberry.
Ah, ça m'intéresse.
Lors de la première aventure...
Fort Navajo.
Il s'appelait Chris.
J'ai pas retenu son nom, mais
Chris quelque chose.
Il mangeait des myrtilles.
Et non. Pas du tout. Dans sa première aventure, il tombe dans une espèce de bosquet et de fossé. Et là se trouvent des myrtilles et il décide de s'appeler Blueberry.
Je savais pas.
Heureusement qu'il est tombé dans ce fossé.
Heureusement que vous êtes là.
T'imagines, il serait tombé dans
le fossé. C'est pas mal.
Oui, c'est ça.
Il a marché dans le crantin de son cheval.
Honnêtement, Joanne Sfar, pour travailler, pour reprendre Blueberry, en tout cas son scénar aux côtés de Christophe Blin, il vous a fallu relire tous les Blueberry pour ne pas... Dites la vérité. C'est ça.
Oui, oui. Bah oui. Enfin, ça, c'était pas très compliqué.
Non, c'est... mais en même temps, il fallait pas. Il fallait
quand même
pas
des bandes dessinées, ça suffit.
La partie chouette du boulot.
J'entends,
ouais.
Mais il fallait pas refaire des scènes ou des choses qui avaient déjà été vues non, pour les fidèles.
La vraie difficulté, c'est que quand on lisait Blueberry et qu'on était enfant, on croyait que c'était écrit pour des grandes personnes. Et quand on relit aujourd'hui les scénarios de Charlier, c'est extraordinaire, mais c'est comme du Alexandre Dumas, c'est-à-dire c'est du roman feuilleton très très balisé. Très... Et comment faire pour aujourd'hui retrouver ce sentiment de lecture? Donc on a parsemé de quelques petites citations de quand il dit des gauches et des hell ou des trucs comme ça, mais on en a mis assez peu et on a essayé de faire entre guillemets pour les grands. Je sais pas ce que ça veut dire, mais le sentiment qu'on avait quand on... c'était ça le problème.
C'est
trouver le ton.
John Sfar, il y a juste c'est une histoire. Point. Après c'est pas spécialement pour les grands, pour les petits, pour les garçons, pour les filles. C'est juste une bonne histoire. Donc dès l'instant où il y a une histoire avec des rebondissements, où il y a du suspense, où il y a une enquête, il y a des personnages attachants,
eh ben
ça
non.
fonctionne.
Eh ben non, parce qu'il suffit pas que ce soit un western. Faut en plus que ce soit un Blueberry.
J'ai pas dit. Ah oui.
Et faut en plus que ce soit un Blueberry. Et on entre dans un domaine assez religieux et assez fanatique quand même, parce qu'on, en général, vous connaissez les tintinophiles, mais les blueberryophiles sont pas beaucoup plus pacifiques.
Ils sont tout aussi sectaires parfois.
Oui, oui, puis ils sont armés. Ils viennent en dédicace avec leur flingue en disant vous avez commis une erreur sur le revolver, il est pas comme ça.
Et donc savez-vous si la secte des fans de Blueberry vous a accepté ou pas?
Alors, moi, celui qui m'apporte le plus, c'est Christophe Blain. C'est-à-dire, si Christophe Blain est content, je suis content. Ensuite, les gens qu'on rencontre en dédicace, d'abord, ils sont ravis que Blueberry soit là. Ils ont compris qu'on n'est pas là pour copier, qu'on est là pour envoyer une lettre d'amour, et à Charlier et Giraud, et à ceux qui ont aimé ce personnage. Après, moi, je suis ravi qu'il y en ait qui râlent. Ça fait partie du plaisir. Enfin, quand j'ai fait Gainsbourg, j'en ai pris assez plein la gueule. Ça me fait plaisir quand les gens sont pas contents.
À tort, d'ailleurs. Alexis Le Rossignol.
Vous parliez au début de l'émission d'un tome 2, en quelque sorte. Vous êtes tenu de respecter un format qui est le format Blueberry de l'époque avec 60 pages. Vous pourriez l'adapter et faire des BD plus modernes avec plus de pages.
Non, je crois qu'il y avait un rythme dans les Blueberry. Il y avait 2-3 albums pour une histoire. Là, c'est une histoire en 2 albums. Ça nous paraissait dans l'esprit. Voilà.
C'est pour 2020 en plus. Ça arrive bientôt la suite.
Ah, Christophe a promis qu'il le dessine cette année.
Et vous l'avez écrit déjà.
Ah, bah, là, oui, moi j'ai tout fait. Je suis tranquille, moi.
Vous avez écrit d'entrée en fait. Vous avez écrit une histoire que vous avez découpée en deux, ou vous avez écrit une première partie, puis une deuxième
partie? Alors, je lui ai écrit la première partie, et il m'a dit, je ne commencerai à dessiner que quand tu auras écrit la deuxième partie. C'est pourquoi je vous dis que maintenant je suis tranquille.
Vous savez quoi, votre copain, je vous le laisse.
C'est qu'il aime son travail. Alors, il prend ça au sérieux.
Il vous met une pression dingue.
Ouais, énorme. Ah, c'est un grand artiste.
Énorme. De dingue.
Grand dessinateur.
Christophe Blain et Johan Sfar signent donc Les Aventures de Blueberry. C'est chez Dargaud. Et Tanguy Pastureau, c'est chez France Inter.
Ah ouais.
Tanguy, la France est en grève.
Oui, le pays est paralysé, il n'y a plus de train. Je ne sais même pas comment font les enfants qui d'habitude hurlent dans le TGV pour pourrir la vie d'autant de gens d'un coup, sans train. À Paris, il n'y a pas de métro, des milliers de gens se déplacent à vélo. Anne Hidalgo, voyant ça, a hurlé par la seringue de Christopher Froome. Le miracle s'est produit. Là, elle est à Lourdes et attend que la Vierge lui file des rustines. Nous sommes en plein rapport de force entre Philippe Martinez de la CGT et Emmanuel Macron de l'Élysée. Lundi, je te préviens, je vais être dur. Le dimanche, moi, je vais être encore plus dur. Un truc de mec, quoi. Quand on les voit en réunion se défier du regard, on a presque l'impression de sentir l'odeur de leur sécrétion. Tout ça est tellement 20e siècle. Déjà l'idée de retraite, ça va. Il prend sa retraite, Michel Drucker? Non, il bosse, assis sur son chien. Et il arrive à avoir l'air intéressé alors qu'il interview Marc Lavoine pour la 700e fois. Son premier live, c'était chez lui. Sa naissance, c'était chez lui. Il a même filmé la conception de Marc Lavoine en 61 dans ce petit F2 de l'Essonne. Il a toujours bossé. Quand je pense à ces seniors qui demandent du temps libre, certains pour voyager en avion avec la pollution que ça génère. Ah bah mamie, si c'est pour prendre les gosses le mercredi et à côté emmener papy au Pérou caresser des lamas, ça sert à rien, tu plombes leur planète, leur avenir. Mais les seniors sont égoïstes. Regardez Albert Algo, jamais il paye un café. Et même les seniors qui sont dans le public ici, ils viennent voir Nagui, il n'y en a pas un qui lui propose la botte. Ou même une espadrille s'ils aiment la douceur. Enfin, ils sont pas dans le partage. Alors payer pour les anciens, ok, mais enfin en contrepartie, tu ne reçois rien. Hein, un jeune veut lui donner de l'argent, en échange, il vous donne du shit. Enfin, à la rigueur, vous êtes Carole Gessler, vous dites sans les seniors, des racines et des ailes, ça ferait 1% en PDA, parce que se passionner pour 1h30 sur 1h30 à propos de la bête somme, il faut avoir amorcé sa fin de vie. Mais enfin, pour tout individu qui n'est pas Carole Gessler, donc qui a des yeux moches, le senior n'est pas si attachant, hein. Et puis cette grève est absurde, ça n'embête que les gens modestes. Comment voulez-vous qu'Edouard Philippe, quand il apprend que la ligne 13 est en rade, parvienne à se projeter? Il ne sait pas ce qu'est le métro. Il a bien remarqué qu'il y avait des trous dans le trottoir avec des marches, mais il se disait ça doit être des taupes en BEP maçonnerie qui se sont
un peu lâché. Non, pour qu'il y ait un impact, vous bloquez la livraison de chouquettes, de café. Chaque mercredi, conseil des ministres à la cristalline, tous à se nourrir des pommottes de Muriel Pénicaud. Sous 12 jours, Macron propose la retraite à 40 ans, payée 5 000 € brut. Mais il faut taper les personnes visées là où ça les touche. Si vous voulez faire tomber Nabila, vous bloquez pas la bibliothèque. Enfin, vous débranchez Instagram. Et même ici, à Inter, il y a une grève pour sauver des emplois. Hein, parce qu'il y a un plan de départ volontaire. C'est-à-dire qu'on dit à des gens, il faudrait que vous partiez, répondre « Ah non, non ». On leur dit « Allez, quoi, on prend la cagnotte du jeu des 1000 euros qu'on divise en 300, ça fait tout de même 333,33 € chacun. Allez, je suis cool, j'arrondis à 334 ». Donc ils répondent « Ah, quand même, avec ça, je peux m'acheter 334 smartphones Huawei hein ». Et donc, ils partent, Nagui.
Bon, et cette grève vous paraît moderne ?
Mais non, pas du tout, elle est ringarde. Elle ne pénalise personne, puisqu'à la place des émissions, ils mettent la playlist d'Inter, qui est le vivre ensemble, mais en musique. Hein, y a du rap, du rock, de la rumba, Eddie de Preto qui pleure 120 fois Clara Luciani par demi-heure, et même un petit Ben Harper qui caresse sa gratte sur ses genoux, parce que c'est un monsieur qui a toujours confondu sa gratte et son chat. Hein, d'ailleurs, tous les soirs, il accorde son chat. Le premier jour de la grève, à ma place, il y avait un titre de Jean-Louis Murat. Bah, j'ai conscience que pour l'auditeur, niveau beauté de l'instant, il vaut mieux entendre Murat que Pasturo. Un bon col de la Croix-Morant, ça vous procure des sentiments intenses. On a envie de mourir dans le sang d'un mouflon qu'on vient d'écorcher en glapissant de Châteaubriand. Enfin, m'entendre-moi caser le terme ma grosse loup trois fois la semaine, c'est nul. Donc cette grève, elle peut durer 10 ans, personne n'en a rien à foutre. La direction se dit charge salariale zéro, on fait tourner Spotify, c'est bonnard. Les auditeurs Shazam tout en se disant tiens, là aussi cette reprise d'Herbert Léonard, c'est Clara Luciani. Enfin, la France kiffe. La musique nous est supérieure, pardon Nagui, mais si taratata, oui. C'était juste vous en train de causer à Julien Clerc, ça n'aurait pas grand sens. Ouais, c'est parce que Julien Clerc chante que ma grand-tante dit ah la vache, même à 72 piges, il continue à m'exciter le lascar.
Oh,
la CGT Radio France est donc dans l'erreur. Ce qu'il faut, c'est plomber la station, pas la magnifier, pirater l'antenne de BFM Business et diffuser-la en direct sur Inter. La troisième chronique à la suite sur les nouveaux petits princes du Nasdaq, on aura perdu la moitié de nos auditeurs. Pour eux, Benoît Hamon, économiquement, c'est déjà le libéralisme. Et là, vous serez entendu balancer du Carla Bruni toute la journée, entrecoupé de messages appelant à la libération de Patrick Balkany. Tout ce que cette radio n'est pas. Lancer une émission intitulée « Les Palestiniens ne sont pas de belles personnes ». Ou un talk show autour de la viande de bœuf qui s'appellerait « Nagui, tu l'as dans l'os ». Parce que là, il se passe quoi ? Rien. On écoute la playlist de grève en buvant des petits thés. Et Germinal, alors vous pensez que les mineurs, ils passaient du free jazz éthiopien en espérant sonner comme Radio Nova ? Ben non, ils arrêtaient de produire du charbon et les riches l'été, ils pouvaient plus faire de barbecue. Hein, ah ben je m'y connais, moi, en lutte sociale. Attends.
Merci, Tony.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et ce soir, tu seras à Marôme, près de Rouen.
À Marôme, ouais.
Enfin, si tu arrives à y aller, quoi.
Marôme.
Non, on va y aller en...
En fait, chez sa mère.
Chez Marôme. Ah, je savais pas que ta mère est à côté de Rouen. Ok.
Elle part maintenant.
Que se passe-t-il
dans le monde?
Dans le monde, ouais. Vous pouvez essayer de tous répondre, y compris vous, John Sfar. Que s'est-il passé en fin de semaine dernière lors d'une sortie de lycéens au cinéma?
Ils sont évanouis à cause d'une intoxication.
Ils sont évanouis à cause d'un bon film. Ils sont évanouis face aux yeux sans visage, ces abrutis.
Ils sont tous...
Exactement. Ouais. Exactement.
Ils se sont évanouis.
Dans la série Les enfants sont des contes, leur monde du Jules Franju, ils tombent dans les pommes.
Exactement. Film d'horreur, noir et blanc, les yeux sans visage. Une dizaine de lycéens ont fait un malaise au cinéma.
Pourtant, ils sont âgés, oui.
Ouais, 15 lycéens ont fait un malaise.
Ça fait très peur à ce
moment-là. Vendredi, fin novembre.
Je sais pas, moi.
Ils assistaient. Il s'appelle Georges Franju.
Franju. Bah, qui a Fantomas, il y a des.
Exactement. Et c'était dans un cinéma du Loir-et-Cher.
Ah, bah voilà.
Ah, bah.
Alors, on a cru à une intoxication de monoxyde de carbone, et en fait, aucune trace de...
J'avais fumé.
La cantache.
De gaz.
Ouais, ouais. J'avais
tout fumé avant.
Les syncopes ont débuté peu de temps après une scène choc et phare du film où un chirurgien prélève un visage pour réparer sa fille défigurée dans un accident de la route. Et ça a heurté la sensibilité des lycéens qui ont fait...
Choupinet.
Quelle est la particularité du... Juste une question. Dans le Blueberry, il y a deux, trois images qu'on pourrait qualifier de violentes, d'agression, d'assassinat. Est-ce que là, on se pose la question de dire qu'est-ce que l'on montre, qu'est-ce que l'on suggère?
Non, c'est quel sens on donne à la violence. Il y a eu, traditionnellement, dans le western en BD, il y a parfois une jouissance à montrer des agressions et des horreurs. Nous, on a voulu que le lecteur soit glacé. Quand il y a des scènes de massacre, on a essayé d'être, de pas être dans la jouissance, d'être dans l'horreur.
Mmh. Albert.
Et c'est la grande différence avec les westerns au cinéma. C'était André Bazin, grand historien du western, qui dit que les hommes ne meurent pas dans les westerns, ils tombent. Il y a, la mort est édulcorée, elle est évacuée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors que dans la BD, la violence est là.
T'as vu, le personnage revient pas.
Vous êtes branché football ou pas, Johannes Farr?
Mais alors pas du tout.
Mais alors pas du tout.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien. Avec qui l'équipe de France de football vient-elle de signer un partenariat pour des produits dérivés?
C'est Becherel.
Dans les cosmétiques?
Non. Tu dis quoi?
Becherel?
Non.
C'est de la technologie? Du matos?
Mais c'est un rapport avec...
Des livres?
Johannes Farr. Bah enfin, non, pas lui personnellement.
Avec un éditeur.
Avec des gens en surpoids?
Avec des... Non, avec la bande dessinée, chérie.
Des librairies?
Quelqu'un va écrire...
Avec un éditeur. Enfin, c'est la Coupe du Monde.
Des non, prix pour les enfants, des trucs...
Tu vas raconter la Coupe du Monde?
Panini.
Non,
Olivier Tom. Si, un album.
Oui,
voilà. Mais non.
Mais si, Olivier Tom.
Bonne réponse pour Pastureau. Allez-y.
Et ça veut dire ils vont chacun avoir leur personnage en dessin, enfin ils vont être adaptés en
collaboration entre l'équipe de France de football et la série japonaise Captain Tsubasa, donc Olivier Tom en France. Le partenariat c'est en prévision de l'Euro 2020. La France est donc qualifiée, je le rappelle, et puis elle va rencontrer des équipes extrêmement faciles à affronter comme l'Allemagne,
ça changera,
le Portugal. Mais on va gagner quand même, il y a aucune raison.
On gagne toujours.
Et donc la série de dessins mettra en scène les 11 bleus avec des personnages de Capitaine Tsubasa, donc avec Olivier Tom, qui a créé lui également une équipe de France à l'époque dans Olivier Tom.
Enfin, c'est génial.
Non, c'est bien que la bande dessinée et le football se rejoignent, en plus Olivier Tom, foot, c'est génial.
Moi, ça change ma journée. Hein. Je suis vraiment content. J'aime ni le foot ni Olivier Tom, mais en tout cas, je suis content. Mais moi, quand des gens sont heureux, je suis heureux.
Olivier Tom.
Mais de toute façon, t'as 40 ans, t'as rien à dire.
Non, mais quand dans Olivier Tom, elle faisait 50 mètres de long.
Mais c'est ça qui est génial.
Fatigant, le foot.
Il mettait 3 plombes avant d'arriver au ballon.
Quand il sautait, tu pouvais aller pisser, tu revenais, t'es encore en l'air.
C'est ça.
Il réfléchissait beaucoup. Tout le long de l'action, il pensait.
Pardon, mais Jeanne et Serge, c'était pareil. Hein,
non, c'était du volleyball.
Non, mais c'était pareil. Mais c'est-à-dire qu'elle saute.
Au moment d'un match, ça durait
elle reste en l'air pendant une décennie, quoi. Pendant deux épisodes, elle est en l'air.
Je suis désolé, mais Magic Johnson aussi, il restait en l'air super longtemps.
C'est vrai, mais lui, c'est pour de vrai.
La chaîne, on dit Viceland ou Viceland?
Vice.
Ok. Viceland vient de lancer un programme où les invités sont interviewés, mais par qui?
Joystar.
Non.
Par des anciens détenus.
Par des gens lambda.
Une personnalité?
Par des prêtres.
Alors c'est pas loin. On est dans la. C'est la profession que je cherche. Non, c'est.
Pasteur.
Preachers.
Des gourous.
Non.
Des...
C'est pas loin non plus.
Des rabbins. Psy.
Pardon? Exact. Tanguy Pastureau.
Je sais pas ce qui m'arrive.
Quel fort!
Mais il est dopé.
Il va jouer chez sa mère ce week-end.
Alors, ça se passe dans un cabinet. Chez ma robe.
C'est ce soir, c'est pas ce week-end.
Un cabinet de psychanalystes avec des tapis, au sol. C'est un psychanalyste, Fernando de Amorim, qui va poser des questions. Le principe, c'est faire une séance de psychanalyse avec un casting improbable, avec des rappeurs, avec des invités plus connus. La liste sous les yeux. Bon, là, j'en connais pas, mais il y en aura des connus.
Non, mais alors, c'est le divan, en fait, de Marc-Olivier Fogiel, quoi.
Oui, sauf que Marco n'est pas psy.
Ah bon?
Non, et Gérard Miller avait fait ça sur France 5 à un moment. Ouais. Il a interviewé des stars comme ça.
Sauf qu'il n'est pas psy. Donc ça, c'est un truc.
Pardon.
C'est
maintenant que je suis très sérieux dans les jeux et que je gagne, vous voyez, j'ai évacué toute notion de second degré.
Tu repères plus l'humour?
Non, non,
on le voit plus d'ailleurs, Gérard Miller.
Non.
Enfin, je dis ça comme ça. Mais...
Merci beaucoup.
Il disparut trop vite.
Sans aller jusqu'à la psychanalyse, la psychologie des personnages est également importante aussi. Il y a une bible que vous avez faite de ces personnages pour donner un état d'esprit à la fille, à ses frères, à la violence des frères et à la...
Non, moi je ne crois pas à la psychologie dans la fiction, je crois vraiment à la dramaturgie. Je crois au truc tragique où t'as des tragédies annoncées, ils se rencontrent. Je ne crois pas aux personnages qui pensent comme nous dans la vraie vie. Un personnage, ce n'est pas un être humain.
Pardon,
c'est une force.
Alors sans révéler le twist qu'il y a dans ce premier tome, la jeune fille, elle a quand même des traits de caractère qui sont bien précis, qui permettent ce rebondissement.
La logique de la tragédie. Je me dis pas, tiens, qu'est-ce qu'elle pense, quelles sont ses motivations. Je pense pas comme ça. Il y a une tragédie, comme dans les romans russes, comme dans les trucs de samouraï. Moi, je crois pas aux choses psychanalytiques et psychologiques pour la dramaturgie. Pour le drame, il faut du drame. Faut que ils vont les uns vers les autres et ça va exploser. C'est des forces comme la météo.
Mais ils viennent pas de nulle part. Ils ont un passé. Et ils ont sans doute des événements qui font qu'ils ont tel ou tel trait de caractère.
Non, Fritz Lang dirait qu'ils naissent au premier plan du film.
Ouais,
en bande dessinée, c'est pas. Ils ont pas de passé. Ils apparaissent lors de la première case. C'est des personnages.
Pas de préquel à ce moment-là.
Non, c'est pas des gens. C'est des personnages. Ils servent, c'est des véhicules pour le récit.
Mm-hmm. Pour le drame, il faut du drame. Pour du morin, il faut du morin. Ça va exploser aussi. Le voici.
Allez.
Enfin, un peu de soutien. Eh oui, on n'en parlait plus pour cause de grève nationale, de retraite à point, de génération 1975 sacrifiée, mais un homme, et quel homme, est dans la tourmente. Non, pas Balkany le blanchisseur. Non, pas Bayrou le détourneur. Un homme dont le nom rimera toujours avec chic, culture et élégance. Le merveilleux Jack Lang, à qui on reproche de s'être laissé offrir pour 500 000 euros de costumes par le couturier Smalto. Une info délation qui a anéanti l'ancien ministre qui n'ose plus sortir, écrasé par la honte que représente cette enquête préliminaire.
Qui sort en jogging.
Heureusement, je suis sûr qu'il en a. Heureusement, tout récemment, deux grands couturiers sont venus apporter leur soutien au grand Jack. Thierry Mugler et Issey Miyake. Ils ne comprennent pas ceux qui s'offusquent des cadeaux faits à l'ancien ministre. Thierry Mugler déclare « Jack, vous faites pleinement partie de la maison mode, dont vous êtes un des plus brillants fleurons. » Issey Miyake a écrit quant à lui « C'est avec joie et fierté que je vous vois porter l'impair et les vestes que j'ai eu l'honneur de créer spécialement pour vous. » Alors pour parler de cette affaire, ce récit, je vais demander à Jean-Jack Lang, le cousin de Jack, qui lui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, je vais l'interviewer lui. Jean-Jack Lang, bonjour.
Salut Danielito.
Jean-Jack, première question. Comment va votre cousin Jack ?
Il est abattu, mortifié, effondré, chamboulé, terrassé, dévasté. Il refuse de manger, il refuse d'aller danser, il refuse même de sortir pour faire ses besoins.
Pour en revenir à l'affaire des costumes, ça fait un peu beaucoup quand même, 500 000 euros.
Attention, c'est du Smalto, c'est pas du Franprix, mon chéri. La qualité, ça se paye. Si tu veux que l'étoffe tombe bien, si tu veux que la couture enroule la cuisse sans jamais casser la fibre, si tu veux que le tissu épouse ton genou en glissant dessus sans le retenir tout en respectant la pliure du ménisque, si tu veux que la doublure accompagne le mouvement du slip sans intriguer la fesse pour qu'elle continue sa progression libre et folle comme elle doit l'être, comme pour un cha-cha. Si tu veux qu'au moment où tu te dessapes, la veste tombe avec élégance sur le fut à la languille, mais jamais avachie, en gardant toute son audace pour un repli vestimentaire, tout en dignité, même après une soirée humiliante. Eh bien, tout ça coûte du fric, mon Danounet.
Non, mais je comprends.
Et encore, on n'a rien dit à propos des sous-vêtements festifs de mon cousin. Il a notamment un slip en cuir doublé soie sauvage avec coque en acajou taillé sur mesure signé Yoji Yamamoto qui à lui seul vaut une fortune.
C'est vrai qu'on n'a rien sans rien, vous avez raison Jean-Jacques.
Tu l'as dit mon Dani.
Non parce que si on veut balancer, hein, ouf, que dire des animateurs télé qui se font offrir des chaussures qui ressemblent à des boules à facettes.
Mais là, par contre, ça va beaucoup trop loin.
Je suis bien d'accord Jean-Jacques. Alors en tout cas, merci d'être venu témoigner.
Salam alaikum.
Bon en tout cas, si en ce moment Jacques nous écoute enroulé dans son peignoir de grand couturier, bien sûr, on l'embrasse tous. À demain, les amis.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Parlons quand même de ce 9e tome de la série du chat du rabbin, nouvel album que vous avez publié. Où là, alors c'est pas un préquel, c'est un flashback. Comment on peut le qualifier ?
Bah, j'ai voulu raconter le destin de la fille du rabbin. En fait, elle parle plus que le chat dans cet album-là. Donc j'ai redit un peu le début, puis.
Pour revenir au moment où le chat se met à parler, en fait.
Voilà, pour montrer que c'est une famille où ça parlait pas beaucoup. Donc le rabbin a pris un chat parce qu'il y a plein de choses qu'il n'arrivait pas à dire à sa fille. Et dans ce livre-là, Zlabia parle plus que le chat et elle est plus progressiste que lui. Et puis la question de ce que peut faire une jeune femme dans le Maghreb dans les années 20, c'est un peu le centre de l'album.
Mais attention, hein, pas d'opinion actuelle politique.
Non, mais ça c'est la vraie question. Tu veux faire un livre où ça parle de féminisme, mais tu veux pas être anachronique. Tu veux pas donner le sentiment que t'as pris la politique du moment et tu l'as mis dans les années 20. Et je me dis, c'est vraiment Zlabia, c'est vraiment les années 20. Comment je fais pour raconter ça sans que ça ait l'air relou et sans que j'ai l'air de faire la morale à mon lecteur. Donc il y a un moment où je fais confiance au personnage.
Ou d'être opportuniste et de surfer sur une actualité.
Mais ça, ce serait pas mal. Non mais blague à part. La BD, il faut qu'elle parle des préoccupations du moment.
Oui.
C'est très bien. Mais il faut pas qu'on ait l'impression de courir derrière. Donc je balance le truc au personnage et je leur dis, je vous fais confiance. Et je laisse Zlabia, le chat et le rabbin écrire eux-mêmes l'histoire. Et moi, je touche les droits d'auteur.
John Sfar et Blueberry, cette histoire avec Christophe Blin s'appelle Amertume Apache, avec une suite à venir donc en 2020. Tout ça publié chez Dargo. Qu'as-tu retenu de cette nouvelle rencontre avec John Sfar, Leïla ?
Oui, bah, je suis ravie de le voir aussi dans cette autre activité de scénariste au service de quelqu'un d'autre. Et j'ai hâte de voir la suite, donc 2020, bientôt.
Merci beaucoup.
Tanguy ?
J'ai jamais lu Blueberry de ma vie, donc je vais peut-être commencer, parce qu'il y a des choses qu'on commence très tard, drogue, Blueberry...
C'est pas pareil,
le
mais...
Voilà.
Chercher l'intrus, pas tout Blueberry. Suite.
Attention, il avait fait déjà l'une des trois activités qu'il vient de citer.
C'est vrai.
Alexis Le Rossignol.
Non, moi j'ai appris aujourd'hui que même si j'ai pas 40 ans, il valait mieux fermer sa gueule, parfois. Alors j'ai pas trop d'opinion. Non, c'est super, lisez-le. En plus, ça reste actuel, alors que ça... Enfin, ça n'a pas vieilli, on va dire.
Daniel,
alors moi, j'étais fasciné et j'ai rarement vu, mais rarement, pour pas dire jamais, quelqu'un aussi bien dessiné que Claudia Cardinal. Claudia Cardinal qui physiquement n'a pas changé. Merci Johan.
Et j'ai gardé pour la fin, évidemment, notre spécialiste bande dessinée, et non pas art, que... Quelle est ton opinion sur Blueberry ?
Bah, il est formidable parce que
sur ce Blueberry,
c'est pas un remake comme il y a certaines séries qui se prolongent plus ou moins heureusement. Et là, c'est très heureux parce que Christophe Blin, bon, il y a le scénariste Sfar qui est à côté de moi, et Christophe Blin, c'est un grand dessinateur. On retrouve sa patte tout en même temps, il respecte justement l'art de Giraud. Donc, c'est une œuvre très personnelle et donc très actuelle, effectivement, comme dit Alexis. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cet album.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, déjà désolé pour Johan Sfar. Alors, j'ai eu Christophe Blanc au téléphone à la pause. Il a résumé. Premièrement, il a dit que jamais, au grand jamais, il n'a un jour été votre ami. Petit B, il trouve que votre imitation de sa voix est nulle. Il compte même vous poursuivre en justice. Et enfin, troisièmement, il vous trouve par contre excellent en lesbienne ratée. Ouais. Désolé pour tous les quadras qui un jour comptaient changer le monde, ou même donner leur avis, ou bien même juste s'exprimer. Vous avez entendu, Johan, les quadras, vos gueules. Et désolé enfin pour mon ami Albert Algou. J'ai décidé d'enfin gagner ma vie, je me lance dans l'art moderne. À la pause, après le coup de fil, j'ai été collé un demi-saucisson sur la façade de la maison de la radio. Attention, les enchères commencent, 122 000 euros, c'est parti, je suis à l'écoute.
Merci. Merci mille fois, Johan Sfar, d'être venu. Merci mille fois, passez une très bonne journée. Et demain, nous recevrons Anne Brochet pour parler de son nouveau roman, La fille et le rouge. Merci Johan Sfar.
Merci.
À bientôt. Oui, n'ayez pas peur, vous pouvez parler au micro encore.